Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà messieurs.
Oui, mais comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi c'est Mika.
Moi c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Bienvenue dans l'épisode numéro 14 du Raisin et des Papilles. Déjà 14 épisodes. Salut Adrien.
Salut Mickaël.
Alors avant de toute chose, je voulais juste donner deux petites nouvelles puisque nous avons notre parrain Florian Beck qui est devenu papa d'un petit Eden la semaine dernière. Et nous avons Yann Durman, épisode 7 et 8, qui est également devenu papa.
Félicitations.
Petit Émile, ça prolifère. Ce sont les premiers bébés du raisin et des papilles. Florian Beck était tout content. On a envoyé une petite carte, il était super content. Et Yann Durman, forcément, il est sur un nuage. Et puis le prochain qui va arriver, c'est Maxime Verly, mi-septembre également. Donc j'ai l'impression que les vignerons sont assez contents, sont assez heureux puisqu'ils font plein de bébés. C'est plutôt une bonne chose. Alors aujourd'hui, nous sommes à Bergheim. C'est notre premier épisode dans le Haut-Rhin. On l'attendait, le Haut-Rhin.
Oui, ça fait un moment, effectivement.
Et nous sommes avec, alors, j'ai envie de dire, il est au vin d'Alsace, au Cazenavour et à la chanson française.
Waouh.
Il est à l'écologie, ce que... Il a un peu du Pierre Rabhi en lui, il y a un peu du Audiard en lui. Certains l'appellent le pape. Un vigneron m'a parlé du pape hier, d'accord. En tout cas, c'est quelqu'un que j'avais envie de rencontrer. Pourquoi? Parce que on parle souvent de terroir, on parle souvent de vin nature, de biodynamie. Il y a plein de mots, mais je pense que c'est un. Alors, pour avoir écouté plein d'interviews de vous, je pense que c'était important aussi d'avoir votre parole, puisqu'on est un podcast qui est essentiellement. Nous, ce qu'on voudrait, c'est parler aux gens qui ne connaissent pas forcément quoi que ce soit en vin et qui ont envie de découvrir. Parler aux Alsaciens, parce que le fils à André Ossertag nous a donné un objectif, c'est de remettre du vin d'Alsace sur les tables de Noël. Puis je crois un peu, vous avez eu un peu la même histoire, vous avez débuté à peu près au même moment. Si je me rappelle bien de ce que j'ai lu, alors le domaine Marcel Dey, c'est le grand-père, c'est bien ça? Alors je vous invite juste à prendre le micro, si ça vous dérange pas,
oui.
C'est plus simple.
Voilà.
Donc 46.
Voilà. Donc la maison est fondée. Le domaine viticole est fondé en 1946, au moment où mes grands-parents se réinstallent dans cette maison,
oui.
qui est la maison de famille, qui était un restaurant. Et ma grand-mère était restauratrice,
oui.
Et elle vendait 300-400 litres de vin par semaine. et lassée de chercher du vin qu'elle ne trouvait pas toujours à la qualité souhaitée, et elle est embarrassée de son mari qu'elle trouvait un peu, je sais pas quoi, ouais, il était pas au bon endroit, enfin voilà, lui c'était un militaire de carrière, quelqu'un d'assez silencieux, qui fuyait les gens, qui était un peu misanthrope, et elle avait toujours besoin de plein de monde autour d'elle et de monnaie. Parce qu'elle confondait le fonds de caisse et le bénéfice. Donc il fait toujours plein de gens autour. Donc lui, il foutait le camp. Et donc elle lui a trouvé un job pour sa vieillesse. C'était piocher une vigne pour faire du vin pour le restaurant.
Okay.
Voilà. Donc ce restaurant a fermé en 1962. Donc moi, mon enfance, c'est un restaurant. Avec toujours du monde, avec l'impossibilité d'avoir une vie de famille, avec le repas à 11h plutôt qu'à midi. Parce qu'à midi, les clients mangent, voilà. Les après-midi, planqués sous le zinc à boire des diabolomantes. Manger des sticks, des bretzels, des indigestions de bretzels.
Ouais.
Voilà. Et puis les vignes, mon grand-père qui m'emmène. Le potager dans le vignoble, parce qu'on allait piocher les jeunes plants avec des poireaux, avec des choux. Mélangé aux vignes, voilà, et puis ça c'est ma petite enfance, 7 ans, 8 ans, et donc c'est cet homme, Marcel Daes, qui m'a quelque part, emmené, formé, accompagné, mis sur les rails, et puis après, je suis un enfant, je suis fils unique, donc je suis assez solitaire, je lis beaucoup, j'ai toujours été un grand lecteur, je suis très silencieux. Je suis extrêmement timide. Je suis comme un animal qui fuit. On n'arrive pas à l'attraper. Un chien fou.
Vous êtes bien dans la nature, en fait.
Et je me réfugie dans la nature. Mmh. Et j'ai des rêves, des projets, des trucs pharaoniques. Dans les vignes, des cabanes, des voilà. Et donc, finalement, j'aurais pu faire plein d'autres choses.
Ouais.
Et puis, bon, voilà, la pression familiale, l'atavisme, la pente... On m'a dit, ouais, ce serait bien d'aller au lycée agricole, ça m'emmerdait complètement, ça ne m'intéressait pas du tout.
Pourquoi ça ne m'étonne pas?
je lisais beaucoup, j'écrivais beaucoup, voilà, j'avais une vie intérieure très forte.
Ouais.
J'étais passionné par la poésie, par la littérature, et pas du tout intéressé par la vigne. Et puis, il faut faire un stage, et puis finalement, on m'envoie chez Jean Huguel.
Qui est un peu votre mentor, c'est ça?
Et cet homme me regarde, me toise, et puis certainement qu'il s'est dit, je vais pas perdre mon temps. Il me pousse dans la piscine du vin pour voir si c'est nage. Et bon, là, je me débat, je me barbote, je coule pas. Finalement, je suis comme le bouchon, je flotte. Et il me dit, je vais vinifier la récolte 73. Donc c'était de tête 7000 hectos, c'est un millésime assez productif.
D'accord.
Et donc dans les 7000 hectos, j'ai dû en centrifuger 5000.
Ok.
Voilà, donc ça commençait à 3h du matin, ça s'arrêtait à 3h l'après-midi. Et alors je rentrais, je mangeais un morceau et je donnais un coup de main à charger le pressoir de la maison, qui était tout petit, parce qu'on était à l'époque... 7 hectares de vignes.
D'accord.
Voilà. Et cet homme m'a fait aimer le vin parce qu'il m'a fait confiance et m'a fait goûter des grandes bouteilles. Et il m'a donné 2-3 phrases importantes qui ont structuré ma vie, qui ont été pour moi des autoroutes. Alors j'en cite toujours une parce qu'elle est toujours d'actualité. Encore aujourd'hui, c'est la démarche autour de moi majeure. Presque uniforme. Nous ne serons jamais une grande région viticole. Ils se lèvent tous le matin pour faire presque aussi bien que le voisin, légèrement moins cher. 50 ans ont passé, ils sont presque toujours en train de faire aussi bien que leur voisin, légèrement moins cher. Et donc moi j'ai compris que c'était pas ça qu'il fallait faire.
Okay.
Il fallait assumer son rêve, essayer de faire du grand vin, demander le prix. Le prix du travail, le prix du travail légitime, le prix du travail bien fait. Voilà, donc ma première bouteille de Grand Cru, 1975. De tête, j'ai dû demander 75 francs. Aucun client pour ça. Voilà, ben oui, j'en ai vendu 300. Mais je ne serais pas là ce soir avec vous à enregistrer un podcast si j'avais pas pris cette décision. Mmh. Et c'était une décision d'une naïveté extraordinaire. Mais si je ne l'avais pas prise,
assumé.
Et ben, et j'assume complètement, ben, quelque part, je ne serais pas là. Mmh. Voilà, il m'a donné à comprendre qu'il fallait être ambitieux, faire l'excellence, en demander le prix, assumer tout le travail. Voilà. Après, il m'a fallu des années pour comprendre que, dit simplement comme je viens de le dire, c'est une impasse. Parce qu'au bout du bout, la clientèle de cet effort se restreint, se réduit comme peau de chagrin, et tu finis par ne plus fabriquer du vin que pour des gens d'haute, entre guillemets, qui vont le mélanger avec du Coca-Cola ou des glaçons, parce que ça fait bien que j'ai compris après qu'il fallait que ce soit du grand vin pensé pour la multitude.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a toujours été en moi, à la fois le désir de l'excellence assumée, mmh. Oui. Et en même temps, le fait de rester simple, de rester accessible, de ne pas fermer sa porte, de ne pas mettre une caméra devant, comme j'ai vu chez certains collègues. Un jour, on ne pouvait plus acheter quelque chose parce que tout partait au Japon, aux États-Unis. Donc les Alsaciens pouvaient... Non, chez moi, ce n'est pas ça. Mmh. Voilà, donc c'est toujours accueillir les gens, avoir un mot pour eux, être comme je suis tous les jours, en bleu de travail, à faire mon travail. Voilà. Être transparent, faire les choses et dire les choses qu'on fait. Je suis très heureux de la réaction aujourd'hui des jeunes vignerons. Ils ont une caractéristique. Leur vie professionnelle est sur Facebook. Mmh. Tout ce qu'ils font, ils le montrent. Mmh. Ils organisent, sans même s'en apercevoir, une transparence totale de leur part.
Bien sûr.
Et donc, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et je me reconnais vraiment là-dedans.
Oui.
Parce que le public a confiance.
Mmh. C'est vrai.
Si on lui fait confiance et qu'on lui donne les outils, donc actuellement, avec quelques-uns, je rêve d'un cahier de charge, ou viticole, d'appellation, ou au plan des contrôles, on s'appuie sur la bonne foi et sur tout ce que les gens diront de leur pratique eux-mêmes. On n'a pas besoin d'un contrôleur qui vient dans une entreprise pour faire de la vérification, parce que tu peux toujours le balader, le mec. Mmh. Voir, tu l'emmènes dans la vigne d'un collègue. Un jour, j'ai trouvé quelqu'un chez moi, dans ma vigne, il faisait un contrôle pour quelqu'un d'autre. Tu vois ? Donc, si tu veux vraiment planter un contrôleur, c'est pas très compliqué.
Ouais, bah oui.
Voilà, tu vas chez un excellent collègue qui fait bien le boulot est fait.
Ouais, bah oui.
Voilà. Donc, non, dire les choses, les mettre sur une blockchain, parce que là, tu peux pas l'enlever.
Ouais.
Donc, quel est le crétin qui prendra le risque de dire quelque chose qu'il ne fait pas, sachant qu'on ne peut pas l'effacer ? Ça n'existe pas. Ou alors il est fou, il est en train de se suicider. Mm-hmm. Voilà, donc faisons confiance aux gens. Et ils sont transparents parce que c'est l'époque. Et organisons la bonne foi et son contrôle sous forme d'auto-contrôle bienveillant. Mm. Voilà. Petite idée à défendre, à pousser, à propulser, à faire... vivre dans vos rencontres, parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on doit changer pour être de nouveau moderne, mm-hmm. en phase avec l'époque,
je pense,
avec l'ère du temps.
Alors je voulais
quelque chose qui fait un peu polémique avec le label 20 méthodes nature, du coup, en ce moment, qui se base uniquement sur la bonne foi. Et c'est vrai que la remarque première qui arrive tout le temps, c'est de dire c'est uniquement de la bonne foi, du coup ça ne marchera pas.
C'est ça.
Il faut compléter la bonne foi avec du déclaratif dans un dispositif de type blockchain. Mm-hmm. C'est-à-dire quelque chose que tu enregistres dans un registre virtuel et tu ne peux pas l'effacer. Voilà. Parce que quel est le problème de l'industrie ? On fait une petite digression.
Pas de souci,
effacer peut-être ?
Mais non. On efface rien.
Aujourd'hui, dans l'industrie, il y a des normes. Le problème, c'est que la mise aux normes d'une industrie suppose la transparence de ses pratiques. Et là, il y a un problème de concurrence, de copiage. D'accord ? Voilà. Donc finalement, on change un petit peu les choses et on va organiser la transparence totale des pratiques dans un registre informatique qu'on ne peut pas toucher. Donc je vais donner un exemple. Est-ce que Adidas prendra le risque de dire par voie de presse « Nous fabriquons des baskets sans enfants au Pakistan dans les usines » alors qu'il existerait la possibilité de démontrer qu'il y a un enfant, un seul, dans une usine au Pakistan qui fabrique des babouches. Jamais Adidas ne prendra ce risque.
Non.
Ou alors la personne qui s'en occupera vérifiera qu'il n'y a pas d'enfant. Et donc il n'y a pas un seul vigneron qui dira « Moi, je n'utilise pas de glyphosate et qui aurait quelque part ne serait-ce que 10 mètres avec du glyphosate. » Parce que ce mec-là, il est inconscient. Ce mec-là, il s'envole. Il est mort. Voilà. Moi, je crois qu'on pourrait organiser ça la bonne foi dans la relation. Tu vois ? Voilà. On ne se connaît pas, vous arrivez. Moi, je vous fais de prime abord confiance. Je n'ai pas de raison de ne pas vous faire confiance. Après, si ça ne fonctionne pas, bah vous serez grillé. Et ce sera pour vous.
Bien sûr.
D'accord ? Et donc, on fait confiance aux acteurs et on leur demande juste de donner la preuve de leur bonne foi. Parce que la bonne foi déclarative, ça ne suffit pas. Les discours de bonne intention, ça ne suffira pas. Mais non, factuellement, on va organiser la transparence. Et moi, je me remets en cause l'idée du contrôleur qui agit au nom de la société. La société peut venir vérifier par elle-même. Aujourd'hui, il existe des moyens d'aller vérifier les pratiques des gens directement.
Bien
puisque
sûr.
Les gens vont mettre leur activité sur la place publique.
Oui.
C'est pas gênant. Ils y sont prêts. Ils n'y voient pas. Enfin, souvent, je suis parfois effrayé de ce que certains mettent sur les réseaux sociaux d'intime. Je me dis, c'est pas possible. Ce type, il a pas réfléchi, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est un état du temps, un instant du temps, de l'ère du temps. Et donc, il faut travailler avec. Il ne faut pas travailler contre.
D'accord.
Voilà, c'est ça l'idée. On est un petit groupe en train de travailler avec Bruno Schlegel, avec Jean-Claude Rifflet, avec Florian Beckharté, avec tous les copains. Même. En train de travailler sur cette question. Parce qu'il faut proposer une alternative à l'appellation, puisque les jeunes en sortent. Parce qu'ils ne veulent plus être fliqués comme des gamins de 6 ans par la maîtresse, quoi.
Oui, c'est ça.
Surtout quand la maîtresse, elle a 17 ans et demi, qu'elle tombe du nid et qu'elle en sait encore moins sur la viticulture qu'eux. Y a un problème, quoi.
Non, mais c'est clair.
Voilà, parce que je veux bien être contrôlé par quelqu'un qui a des états de service,
mais
contrôlé par quelqu'un qui sort de l'école, qui débarque et qui est totalement pas au niveau. Ça rend le contrôle plutôt un peu rigolo, quoi. Voilà.
Okay. Du coup, l'idée, ce serait de créer une quatrième appellation, c'est ça ?
Non, je pense que nous sommes condamnés à revoir de fond en comble notre structure d'appellation actuelle. Et clairement décider qu'est-ce qui est de l'ordre du terroir et qu'est-ce qui est de l'ordre d'autre chose. On a le droit de faire encore autre chose que du vin de terroir en Alsace. Voilà, simplement nos clients, ils ont besoin de savoir de quoi on parle.
Bien sûr.
Voilà, on a essayé sans s'en rendre compte de répondre à ces questions par le cépage, sauf que le cépage n'est jamais une bonne indication, parce que si quelqu'un est capable de me dire qu'est-ce que c'est le Pinot Gris, moi je suis preneur. J'en ai goûté tellement de différents que j'ai renoncé à l'idée que le Pinot
définition.
Gris existe comme totem, comme typologie, comme clé du monde. Ça n'existe pas. Donc, je te donne du Pinot Gris, ça va t'avancer. Tu sais ce que tu vas boire. Non.
Il y en a un topissime.
Il y en a un topissime, voilà. Mais écoute, je ne sais pas. Je pense que si l'indication variétale avait été efficace du point de vue de la lecture de nos clients, ça se saurait et on n'aurait plus de vin. Donc moi, je constate juste qu'aujourd'hui, on produit 80 hectos, on en vend 50, parce que le public ne sait pas ce qu'il y a dans nos bouteilles.
Okay.
Et ce n'est pas parce qu'on écrit Topinot Gris ou Riesling qu'on saura demain.
Oui.
Donc le principal travail, c'est de dire ce qui est de l'ordre du terroir de ce qui n'est pas. On a le droit de faire d'autres choses que des vins de terroir. On a le droit de faire une viticulture qui a envie de produire des vins... Quoi, des vins rigolos, des vins fantaisie, des vins... Il y a mille motifs de faire du vin.
Bien sûr.
Voilà, écoute, quand on voit le rosé, la réussite du rosé en Provence, on peut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il pèse plus lourd que le blanc en France. On peut bien se rendre compte qu'on peut avoir d'autres motifs que le terroir pour faire
du vin. Bien sûr.
C'est légitime. Simplement, il faut que le client le sache.
Oui.
Donc, il s'agit de créer un endroit où on rassemblera tous les terroirs. Ce qui veut dire qu'on va aussi créer un endroit... qui rassemblera ce qui n'est pas du terroir. Mmh. On a déjà discriminé les deux, clairement. Donc moi, je propose, pour pas changer trop les habitudes, que l'endroit où on produit ce qui n'est pas du terroir puisse garder l'information du cépage, parce qu'elle est revendiquée par les gens, c'est leur repère d'aujourd'hui. Mm-hmm. Peut-être qu'il faut être un peu plus précis alors, peut-être un peu plus normé.
Ouais.
Voilà. Mais pour tout ce qui est l'ordre du terroir, il faut juste être totalement transparent. Qu'est-ce que c'est le terroir ? Voilà. Parce que le Schlossberg n'est pas du Riesling. Parce que si c'était du Riesling, qu'est-ce qu'on fait du Chenambourg ? Et qu'est-ce qu'on fait du Rhin ? Et qu'est-ce qu'on fait du Brudertal ? Et qu'est-ce qu'on fait du reste, quoi ? C'est quoi la différence ? Donc il faut forger des outils pour dire chacun des terroirs sans avoir pour référentiel le cépage. Parce qu'il n'est pas adapté à ça. Voilà. Ça, c'est ce que nous aurions dû faire depuis longtemps. Ce que j'avais proposé en 2008... au moment de la réforme européenne, parce que rappelez-vous, en 2008, l'Europe a mis sa législation en conformité avec l'ordre mondial, c'est-à-dire avec la législation de l'Organisation mondiale du commerce, qui prévoyait trois niveaux. Les vins libéraux, c'est du vin, ça fait au moins 8,5 degrés, et pour le reste, t'as fait ce que t'as voulu. Tu veux mettre de la grenadine dedans et des arômes, il y a zéro problème, tu fais. Ça doit faire 8,5 degrés. Point. Après, les vins de savoir-faire, ce qu'on appelle l'IGP, indication géographique protégée, ça sanctionne un savoir-faire. Alors, pour les Alsaciens, c'est un truc qu'ils connaissent. La poire Williams, distillée dans des alambics en cuivre alsacien. C'est fait avec des poires qui viennent de Pologne. C'est un savoir-faire qui est sanctionné et protégé. C'est pas une origine. D'accord ? Et puis, l'AOP, l'appellation d'origine protégée, là, on sanctionne l'origine. C'est le cru. Donc là, nous proposons que la commune soit le centre de gravité de ce nouveau dispositif et que chacune des communes contienne ses crus, y compris les grands crus. Voilà. Parce que à Ribeauvillé, il y a trois grands crus, il est quand même légitime que quand j'achète une bouteille de Ribeauvillé, ça contienne un tout petit peu chacun des trois grands crus. Parce que finalement, le grand cru, c'est une précision à l'intérieur de Ribeauvillé. D'accord ? Le Meursault Charme, c'est du Meursault un peu plus précis. Il est charmant parce qu'il est juste à côté de Genevrière qui lui ne l'est jamais. Genevrière, c'est un objet assez végétal. Assez dur. C'est pas charmant du tout. C'est pas arrondi, c'est pas potelé, c'est pas confortable, c'est un peu inconfortable, légèrement rugueux, un peu pointu. Et donc cette différence, c'est bien du Meursault, mais l'un est charmant et l'autre est inconfortable. Meursault Charme, Meursault Genevrière. Ce sont des aspects un peu particuliers de l'espace Meursault, qui est surtout un espace climatique. Dans le cas de la Bourgogne, c'est assez simple, puisqu'on a un seul type de terroir, argilo-calcaire. Chez nous, c'est un peu plus compliqué, donc il faut faire un petit arbitrage pour chacune des communes. Qu'est-ce que c'est sa couleur géologique majoritaire ? Alors, c'est pas très compliqué, Il y a des grands espaces qui sont seulement cristallins, dans Maclaville. Il y a des grands espaces qui sont notoirement argilo-calcaire. On va prendre, Barre. Et puis, il y a des communes mixtes. Tu peux, à Berkheim, il y a un grand espace argilo-calcaire et un petit espace cristallin. Eh bien, on décidera que la majorité de la thématique, c'est argilo-calcaire, ce qui voudra dire que le cru Engelgarten, qui est un terroir cristallin, il ne rentre pas dans la typologie de Berkheim. On ne pourra pas le replier dans un Berkheim. Tout ça est très simple, très transparent pour un consommateur qui achète quand même une bouteille qui coûte 25 euros. Donc, quelque part... sans être un spécialiste, c'est au moins quelqu'un qui aime le vin. Et c'est quelqu'un qui met un budget pour ça, parce que ça, dans sa sensibilité, c'est important. Ça vaut ça. Donc il se passionne. Et donc ces notions-là, qui peuvent paraître très abstraites, non, c'est pour un amateur, c'est pas abstrait du tout. Pour lui, c'est très très important. Il suffit d'ailleurs de voir sur les étiquettes les références au terroir. Là, je suis en train de préparer une dégustation de vin du Sud, je fais une collection sur schiste. J'ai 6 producteurs, toutes des cuvées sur schiste. Après, des cuvées sur basalte, tu vois, etc. Mm. Voilà. Ce qu'on va vivre, c'est ce qu'a vécu Saint-Émilion pendant des années, et c'est ce qu'a vécu factuellement Châteauneuf-du-Pape pendant les 15 dernières années.
Ouais.
Il y a 15 ans, Châteauneuf-du-Pape, les vignerons se baladaient avec un t-shirt qui avait marqué « Grenache only ». Et maintenant, ils ont un t-shirt qui a marqué « Safre, éclat calcaire, galets roulés, je ne sais plus quoi, sol blanc ». Voilà. Parce qu'il y a 5 typologies de terroirs à Châteauneuf-du-Pape, et donc ils ont mis sur le t-shirt leurs 5 typologies de terroirs. Avant, ils ont simplifié le truc, c'était du grenache. Tout le monde, alors les mecs, ils avaient encore plein d'autres choses dans leurs mains, mais ils ne parlaient que du grenache, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde te dit « Ah, moi, j'ai les 13 cépages autorisés dans l'appellation, mais je suis sur safre. » Ah, c'est quoi safre? Ben, ça veut juste dire du sable. Mm-hmm. Voilà. L'amateur, il est passionné. Et c'est pour ça, parce qu'il est passionné, qu'il dépense 25, 30, 40 euros pour une bouteille. Et ça doit être notre public, parce que produire du vin en Alsace coûte cher.
Mm-hmm.
Notre espace est cher. Nos structures sont chères. Mm-hmm. Nos terres sont chères. Notre main-d'œuvre est chère et qualifiée. Donc on ne peut pas produire du vin populaire et qui coûte rien, parce que ça coûte trop cher.
C'est ce que vous me disiez la dernière fois.
On n'est pas dans cette course, quoi. On ne peut pas gagner ce grand prix-là.
Une bouteille à 10 euros, je ne sais pas faire.
Bien sûr, mais je ne sais pas pourquoi il faut faire presque aussi bien que le voisin, légèrement moins cher. Faisons mieux que le voisin et assumons.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est ce que vous me disiez la dernière fois, un vin à 10 euros, moi, je ne sais pas faire.
Non, oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui rentre chez moi et qui me dit « Je voudrais une bouteille de Sylvaner à 5,60 €. » Je lui réponds très gentiment « Voilà, il y a un tel, vous pouvez acheter ça, mais moi, je ne sais pas faire ça. Ce n'est pas mon boulot. Tu peux aller demander une pizza chez le Barlin, tu peux essayer. Il y aura bien si ça marche. D'accord ? Donc, voilà. Ça, c'est une réforme qui va se faire, c'est inéluctable, parce que les gens, s'ils doivent continuer à faire de la viticulture, il va falloir qu'ils bougent assez vite, sachant qu'aujourd'hui, ce qu'ils proposent, dans l'immense majorité, n'a pas de futur, n'a pas d'avenir, parce que le consommateur qui dépense de l'argent pour le vin, ce n'est plus ça qu'il attend.
Exact.
Le consommateur d'aujourd'hui ne veut plus d'une norme économiquement performante.
Non.
Il veut d'une aventure.
C'est ça.
Il veut vivre une aventure.
Il veut une histoire, il veut des émotions.
Il veut quelque part avoir une somme d'informations au plan de l'étiquette, au plan de l'histoire, au plan des pratiques du vigneron, au plan du tempérament du vigneron. Il veut connaître ses engagements environnementaux, savoir tout.
Oui.
Voilà, c'est ça qu'il attend. Le goût arrive presque en dernière position. Ça peut être difficile à accepter quand on essaye de faire du grand vin, mais il y a aujourd'hui plein de bouteilles qui ne sont pas authentiquement gustativement des grands vins et qui pourtant rencontrent le succès, parce que les gens les achètent pas pour le goût, ils les achètent pour toutes les valeurs communicantes qui accompagnent goût qui pour un professionnel n'est pas bon, mais pour eux est tout à fait plaisant puisqu'il est habité par ces valeurs. Voilà, comment tu comprends qu'il y a des gens qui boivent du vin totalement foireux, voire vinaigré, et qui trouvent ça extraordinaire? C'est pas juste parce qu'ils sont des bobos, c'est parce qu'ils communient dans toutes les valeurs périphériques au goût, qui transcendent le goût. Voilà. Et s'ils sont pas malades le lendemain, eh ben c'est une magnifique aventure parce que ça permet de recommencer.
Oui.
À quoi ça peut bien servir une bouteille qui est absolument parfaite et le lendemain t'as une gueule de bois, t'as la barre, t'es pas bien du tout, tu sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé et t'as aucune envie de recommencer.
Non.
Voilà, donc les gamins d'aujourd'hui, 30 ans, ils ont fait leur choix.
Ouais, c'est ça.
Et ça, à Colmar, on semble pas comprendre. Mm-hmm. Parfois, ça prend des allures presque tragiques. Un journaliste parisien me racontait qu'il a téléphoné au Siva pour rencontrer une série de jeunes vignerons, parce qu'il voulait faire un article sur la relève.
Oui.
Et ben le Siva n'a pas pu l'envoyer chez les jeunes vignerons, parce que les jeunes vignerons en question ne fabriquent pas quelque chose de conforme du point de vue du Siva.
Ben oui.
Alors nous payons avec notre argent une promotion collective. Des journalistes viennent nous voir et on leur répond « Circulez, chez nous, il n'y a rien à voir. »
Rien à voir.
Parce qu'on ne peut pas vous envoyer chez des gens qui ne sont pas conformes. Écoute, voilà, ici, depuis 40 ans, il y a un travail de formation profonde sur ce que sont les terroirs de Berkane qui est fait. Chacun pensera ce qu'il veut. Il y a un classement qui vient de paraître des 50 destinations viticoles les plus intéressantes aujourd'hui à visiter. Il y a un seul domaine alsacien qui est cité.
Domaine d'Aix.
Nous, par hasard. Peut-être l'année prochaine, j'espère, ce sera quelqu'un d'autre. Eh bien non, c'est pas une fierté pour les Alsaciens. On n'en a pas parlé. Mm. C'est hallucinant, quoi. Tu te dis, est-ce que ces gens vont bien ?
Ouais, mais c'est ça.
Voilà, donc santé.
Santé. Donc on. Est-ce qu'il y a
une faire.
Et du coup, fin des années 90, passe en biodynamie, c'est ça, à peu près ? Ouais, je crois que vous étiez un peu des. Vous étiez trois.
84, je reçois, grâce à Jean Hugel, je reprends les lignes de la maison Price Henny,
ouais.
qui était une grande maison de négoce prestigieuse à l'époque, dans les années 50, avec un très joli vignoble, particulièrement au Sporen, mm-hmm. au Sonnenglanz,
ouais.
Au Schönenburg. Et donc, moi, j'ai la chance de pouvoir reprendre quelques-unes de ces vignes qui sont complantées.
Alors, justement, qu'est-ce que la contemplation ?
Eh bien, t'achètes une vigne et sur le l'acte de vente, il y a marqué que Olivo Foncier, c'est marqué Riesling derrière.
Ouais.
quand tu vas au service de la viticulture à Colmar, dans le registre, c'est marqué Riesling.
Je pense que le cadastre aussi.
Sauf que dans la vigne, il y a plein de choses qui ne sont pas du Riesling.
D'accord.
Et que tu ne reconnais pas. Alors, il y a des choses qui ne sont pas du Riesling que tu reconnais,
ouais.
Mais il y a aussi des choses que tu ne reconnais pas.
Donc il faut réformer le
cadastre. Et donc, quelque part, bah, tu te passionnes, tu t'intéresses, ouais. Tu goûtes, tu essaies de comprendre, tu te documentes. C'est comme ça que tu repars sur la piste des vieux cépages orphelins, mm-hmm. alsaciens. En 84, personne ne parlait de cépages orphelins, personne ne connaissait cette notion. Bah, moi, j'avais une vigne avec des vieux cépages orphelins.
Mm-hmm.
Voilà. Et puis donc ça m'a intéressé, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est. Alors on m'a dit c'est du muscat moréote. Alors j'ai cherché qu'est-ce que c'est le muscat moréote, quoi, tu vois. Et puis,
jamais entendu parler.
Et puis le Riesling noir. Alors ça c'est un truc intéressant parce que le Riesling il peut être que blanc.
Bah oui.
Parce que s'il est noir, il y a un problème de racisme, tu vois. Du Riesling noir. Attendez les gars, c'est suspect. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà. Ben non, il y a du Riesling noir. Parce qu'il faut savoir, le Riesling, c'est une famille de 9 enfants. Il y a 9 frères et sœurs. Et nous avons décidé qu'un
était blanc.
Était le vrai, le blanc. Mm-hmm. Et que les autres, on les a fait disparaître, anéantis, parce qu'ils n'avaient pas droit au chapitre. Et pour être tout à fait sûr que celui-là, là, il allait gagner, celui-là, on a pris un clone de celui-là, et on a dit, ça, c'est le vrai, le nôtre. Voilà. Mais quand tu grattes nos anciens, ils ont utilisé les 8 frères et sœurs. Et là-dedans, il y a des cépages qui font un raisin magnifique avec les technologies d'aujourd'hui et qui fait 12,5 degrés à plein ballon.
Mm-hmm.
Et c'est vachement intéressant sous le climat d'aujourd'hui, hein, parce que c'est des cépages rustiques qui produisent pas trop, hein, et qui sont pas très performants parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés.
Mm-hmm.
La sélection, elle porte toujours sur la quantité et le sucre.
Ouais, c'est les
plus... Or, c'est juste les deux choses qu'on n'a pas besoin, parce que la quantité, il n'y a plus de consommation.
Mm-hmm.
La consommation a été divisée par 2. À quoi peut bien servir un modèle où tu as autant de raisins que de feuilles si tu n'as pas de clients pour boire les bouteilles ?
Je suis d'accord.
Voilà. Et baisser le prix pour finalement essayer de convaincre des gens, ça, c'est peine perdue. Ça ne sert à rien parce qu'ils ne consomment pas.
Mais quand voilà. Vous êtes arrivé avec...
Donc il faut revenir à l'essentiel. Donc voilà, j'ai reçu cette vigne, ouais. Ça m'a intéressé,
ouais.
Et donc c'était une vigne extrêmement régulière qui produisait tous les ans les mêmes quantités faibles de raisins absolument magnifiques et qui donnait un vin magique,
ouais.
Juste magique. Tu fais juste le boulot et le vin est génial, le vin est grandiose. C'est juste un truc, tu descends à la cave, tu goûtes ça, tu te dis merde, c'est pas possible, t'as la chair de poule. Voilà. Comment c'est possible qu'une vigne, elle fasse ça ? Eh bien, c'est les grands terroirs, les endroits magiques. C'est quoi les endroits où tu fais juste normalement le boulot et t'es récompensé. Bah, c'est des endroits qui sont chargés de grâce, qui ont des potentiels incroyables. Parce que moi, j'ai essayé dans des endroits moyens de faire 30 hectolitres hectares, c'est pas meilleur qu'à 60. Hein. Mmh. Voilà. Tu vois, moi, je suis un mec plein de bon sens. J'ai tout essayé. Donc, je peux vous dire que 30 hectolitres dans un endroit sans talent, ça fait pas meilleur que 60.
Non, c'est sûr.
Ça vaut pas la peine. C'est du temps perdu. Si tu veux faire 30, il faut aller dans un endroit chargé de grâce. Ce sont les grands crus. Ce sont les endroits que, depuis des siècles, des dizaines de siècles, les gens savent que là, ça donne du raisin pour faire du vin de messe. C'est une phrase comme ça. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça donne du raisin qui est si parfait que tu n'as pas besoin de l'améliorer. Est-ce que ce n'est pas la demande absolument évidente des gens de notre temps ? Ils veulent quelque chose de totalement, totalement transparent et qui n'est pas bricolé. Mm-hmm. Je disais récemment à un ami... Il a mon âge, c'est une plaisanterie. J'ai dit, tu sais, dans les 3 ou 4 ans, tu feras du vin non filtré. Alors, c'est un industriel. Hein. Il me dit, moi ? J'ai dit, oui, jamais. J'ai dit, tu te trompes lourdement. Il me dit, pourquoi ? Bah, j'ai dit, c'est assez simple. Le vin qui n'est pas brillant, le vin qui est un peu taché, le vin qui est encore sur sa lie, il démontre au moins par l'absurde qu'il n'est pas fait par un type qui maîtrise le truc à fond. C'est un vin qui plaide la bonne foi... comment je pourrais expliquer qui démontre que c'est fait juste comme on peut, quoi. Mm-hmm. Voilà. Un vin imparfait, c'est au moins fait par un type qui n'est pas un coquin.
Bah, il peut acheter des mies déshydratées pour pouvoir ajouter.
Écoute, je sais pas, mais non, parce qu'il calcule. Et non, il va enlever le filtre et il va se rendre compte que ben il y a plus de vin. Voilà, ça c'est par exemple mis en bouteille sans filtration. Mm-hmm. Ribovillé. Et donc, voilà. C'est le futur du vin d'Alsace, parce que le futur du vin d'Alsace, c'est simplement un objet totalement transparent.
C'est ça.
Tout ce qu'on fait, on le dit. Et tout ce qu'on dit, on l'a fait. Et on peut le montrer. Mmh. Voilà. Sans faire de l'œnotourisme. Hein. On va pas se mettre en spectacle, quoi, avec des autobus qui circulent. Non. Juste de façon moderne, transparente, évidente. Directement pour le consommateur. Voilà, ça c'est, je pense, une idée importante. Et ces vins-là, qui viennent des grands terroirs, ils ont une caractéristique. Ils sont chargés d'une énergie que tu peux capter comme ça, juste à travers le verre, dans le noir. Tu peux décrire ce qu'il y a dans le verre. C'est assez stupéfiant, mais ça marche. Par exemple, là, tu vas avoir quelque chose qui te pique légèrement, quelque chose qui te sollicite, qui vibre dans le verre, qui irrite un peu ta peau, tu vois. Mais il faut fermer les yeux, il faut complètement se rentrer en soi, s'apaiser, respirer paisiblement, lâcher tout, lâcher prise, et tu verras que le vin envoie à travers le verre, parce que si je te mets un vin industriel à 2,60€, tu peux toujours rester une heure dans le noir, tu verras qu'il ne se passe rien du tout.
Tu
commences à avoir des idées noires. Tu vois des Golgotha et des villes.
C'est le monde
Olivier. Et tu vois Beyrouth soufflée par une explosion. Tu comprends tout de suite que c'est pas un endroit paisible et accueillant.
Non, c'est sûr.
Voilà. Donc tu as ce premier niveau énergétique et c'est ce niveau énergétique qui va te faire saliver. Donc la salivation, c'est la signature d'un lieu. C'est la signature aussi du fait que celui qui l'a fait, il s'est mis dans l'arrière-plan. Il a pas fait du vin pour l'ego, pour exister. Oui. Il a juste fait du vin pour transmettre le message.
Pour raconter une histoire.
Et pour raconter cette histoire. Pas son histoire, l'histoire de ce lieu, oui. L'histoire profonde de ce lieu. Alors si tu creuses un peu, dégustation intuitive, tu t'isoles dans le noir.
Avec une bougie.
Et tu vas voir dans le noir apparaître des couleurs. C'est ce qu'on appelle la synesthésie. Mmh. L'esprit humain associe des couleurs, des ambiances à une information énergétique qui arrive. Par exemple, je te bande les yeux, je te fais rentrer dans une pièce, tu es capable de me décrire l'ambiance de cette pièce alors que tu ne la vois pas. Mmh. Tu sauras si c'est un endroit apaisant, si c'est un endroit inquiétant. L'aveugle qui marche, pour lui, le monde, il est plein de choses trappes. Imagine, il pourrait y avoir un trou et je tombe dedans. Eh bien, il voit les obstacles. Il ressent le monde. Il le voit peut-être mieux que moi, qui suis voyant. Parce que moi, je vois les détails, les personnages qui passent, les gamines avec les robes fendues, et puis les vieilles dames avec les baluchons. Moi, je vois les objets factuels rajoutés. Lui, il voit la profondeur, le 3D de l'endroit. Voilà, il tombe pas dans les trous. Donc, tu te mets dans le noir, tu t'abandonnes, tu recevras des couleurs, des ambiances, des chaleurs. Tu sauras le paysage qui est derrière ce vin, cette étiquette. Nous avons fait cette étiquette collectivement dans le noir. Parce que tu ne peux pas mettre, par exemple, du jaune sur ce vin. Ça ne va pas. C'est un vin froid. C'est des couleurs froides. Voilà. Et la salivation est une salivation précise, localisée à certains endroits. Et ce qui est passionnant, c'est que nous salivons tous au même endroit.
Oui.
Parce que si nous n'étions d'accord sur rien au plan des arômes, puisque les arômes parlent de nous individuellement, nous salivons tous au même endroit. Et donc, on peut très facilement se retrouver, se donner la main.
Bien sûr. Bien sûr.
Puisque nous salivons tous au même endroit et que nous pouvons dire cette salivation, la décrire, sa rugosité, son onctuosité, sa souplesse, sa couleur, son éclat, et après le souvenir que nous en gardons, le lendemain, ce que je raconte à mon pote. Voilà, dégustation géosensorielle. Alors c'est très très simple, il y a trois grandes familles de roches sur la planète, les roches cristallines, le grès, le granit, le gravier, les roches sédimentaires, le calcaire, l'argile, la marne, c'est le mélange des deux précédents, et puis une troisième famille, les roches volcaniques. Eh bien, ces trois types de roches font saliver n'importe qui à des endroits différents. Chacun au même endroit. Donc, si je fais un peu attention à ma salivation, je peux au moins dire si c'est un terroir cristallin, si c'est un terroir sédimentaire plutôt calcaire ou plutôt argileux, si c'est un terroir volcanique. Et surtout, surtout, je peux déjà, malgré l'étiquette, les renseignements compliqués, cru classés. Qu'est-ce que c'est? C'est mystérieux. Je peux au moins dire, quand ça ne parle pas d'un terroir, que ça n'a rien à voir avec un terroir. Que le terme domaine ou château serait usurpé. Voilà, parce qu'un vin industriel, à minima, il est plutôt bien fait. L'industrie, c'est pas pour faire quelque chose qui est pas bon.
Bah oui.
C'est plutôt pour faire quelque chose de réussi et de bon. Bah simplement, ça parle pas d'un terroir.
Bah non.
Et donc, je ne salive pas.
Bah oui.
Voilà. Alors, si on me demande 100 € pour une bouteille, on me dit oh, c'est château de Trucmuche, c'est du Pomerol, et que ça salive pas, c'est un peu embêtant.
Bah, je préfère mettre 25 € dans un
vin. D'accord. Voilà. Donc, donner cet outil à la multitude en leur disant vous êtes des spécialistes, vous êtes capables de le faire. Vous êtes équipé depuis votre naissance, vous savez très bien faire la différence entre froid, chaud, rugueux, lisse, épais, fin, etc. Et donc, vous êtes capable de parler de terroir. Et quand ça ne vous fait pas saliver, eh ben, ce n'est pas du vin de terroir. Vous avez le droit de le trouver bon. Mais on ne peut pas vous demander 100 € pour ça.
Non.
Parce que ce serait usurpé, on vous prendrait pour des cons. D'accord ? Voilà, j'en suis là, et je pense que c'est un outil très utile et très important, et je pense que c'est pas totalement neutre. Si aujourd'hui, après les errements qu'on a vus d'une certaine presse décrivant les vins dans des termes tellement alambiqués que plus personne ne comprenait rien, un jour ma sommelier m'a parlé de mon vin et il a dit « Ah, c'est des très très jolis arômes empyromatiques ». J'avais envie de me lever et de lui en coller une parce que je me suis dit, il me prend vraiment pour un con. Je ne comprends pas ce qu'il me raconte. Tu vois, c'est mon architecte qui me décrit ma maison et je ne comprends pas que c'est de ma maison qu'il parle ou mon médecin qui m'expliquerait que je vais mourir. Mais je ne comprends pas finalement parce que sa description des symptômes et des médications est tellement compliquée que finalement, moi, je me dis, je suis en bonne santé. Quoi. Je vais prendre une aspirine. Voilà. Ce langage des spécialistes est absolument effrayant, politiquement insupportable, parce qu'il crée des castes. Et nos sociétés, elles sont déjà assez divisées. On n'a pas besoin de
castes supplémentaires.
Ça ne sert à rien. Donc revenons à l'essentiel. Ceux qui ne salivent pas ne parlent pas d'un terroir. Il n'y a pas de jugement de morale là-dedans. On a le droit de faire du vin qui ne salive pas. On assume juste que c'est du vin très bien fait, industriel, pour le plaisir. Et puis, ça salive parce que ça parle d'un endroit. Et moi, qui ne comprends rien du tout, je suis capable d'aller dedans et d'aller de plus en plus loin. Voilà. Et si je tombe sur un gars qui peut me tenir la main, eh ben moi, qui comprends rien du tout, je saurais faire la différence entre ce qui est argileux, épais et légèrement collant, et de ce qui est calcaire, fin et légèrement pointu. Tu vois ? Voilà. Et puis les terroirs volcaniques, bah, c'est des choses chaudes. C'est effusif au milieu de bouche. J'ai l'impression de quelque chose qui sourde la chaleur. Souvent, l'environnement extérieur du vin est froid, mais le centre est chaud.
Oui.
Voilà. Et donc, je goûte un vin, c'est volcanique, mais c'est magique. Et voilà. Et si derrière, sur la contre-étiquette, on me confirme, ben, c'est quand même c'est formidable, culturellement parlant.
Bien sûr.
J'ai fait un progrès vertigineux.
Oui.
Tu vois, je veux dire, moi qui pensais que je pouvais que marcher, non, je sais voler en avion, quoi. C'est super. Voilà. Essayez de juste donner des outils aux gens pour qu'ils fassent le petit bond. Et on ne passe pas un examen pour la cuisine,
non,
par exemple.
Non, mais non.
Pourquoi on passerait un examen pour le vin ? Enfin, je ne comprends pas. C'est, on a juste mis le vin au mauvais endroit. Et alors, ils sont tous là, effrayés, parce que c'est les flics au bord des routes avec les éthylotests qui expliquent qu'ils ne vendent plus leur vin. Mais non, c'est juste que nous avons collectivement décidé que le vin, c'était pas pour n'importe qui. Et déjà, en premier, c'est choquant, c'est pas bon pour les enfants. Mais alors, est-ce que c'est bon pour les grands ? Moi, je renverse la proposition. Si c'est bon pour moi qui ai 66 ans, ma fille de 14, elle peut en boire. Il y a peut-être un problème de dose. Peut-être moi qui pèse 70 kilos, voire un peu plus qu'elle, qui en pèse 40. Mais en tout état de cause, sur le plan fonctionnel, si c'est bon pour moi, ça ne peut pas être mauvais pour elle. Tu vois, il faut remettre les choses dans la perspective. Voilà, je crois que si les vignerons et si les instances se réfléchissaient un petit peu plus aux grands enjeux sociétaux qui sont autour de nous, ben, je crois qu'on se porterait mieux, on verrait un peu plus vers quoi on va, on serait capable de s'adapter. Je donne un autre exemple. Nous n'arrivons pas en Alsace à donner un contenu environnemental à nos pratiques. C'est juste du suicide. Où est le public qui veut aujourd'hui boire quelque chose qui ne donne pas de garantie environnementale ? C'est juste un suicide.
Même le CIVB l'a compris, ça.
Mais oui, on n'arrive pas. Enfin, moi, ça me choque. Je ne peux pas comprendre. Quoi. J'ai dit, pour moi, c'est un prérequis de ce qui est nécessaire aujourd'hui. Essayez donc de vendre une voiture sans autoradio et sans ceinture de sécurité. Ben non, vous verrez que ça ne marche pas.
Ben
il vous faut un autoradio et des ceintures de sécurité. Et encore un truc Bluetooth, là, je ne sais pas quoi.
Bluetooth.
Hein, pour brancher l'ordinateur, tu vois. Voilà. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans d'ici, ce sera la conduite autonome. Parce qu'on prendra la voiture, on roulera à 60, mais ce ne sera plus nous qui allons conduire, on fera autre chose pendant ce temps. Eh ben écoute, on ira faire des stages sur circuit pour piloter. Et le reste du temps, on sera conduire en notre voiture.
C'est ça.
Et celui qui proposera une voiture juste avec les moteurs, la boîte de vitesse et les pédales, il ne va pas la vendre. Voilà. Parce que ce sera... Aujourd'hui, on ne peut plus proposer du vin sans garantie environnementale. Ce n'est plus possible.
Et puis l'Alsace a de la force là-dedans, parce qu'il y a quand même beaucoup de domaines qui sont déjà en bio, il y a une culture de la biodynamie, il y a quand même pas mal de choses. Donc, et puis il y a un climat qui est beaucoup plus clément aussi que dans d'autres endroits. Donc,
on a tous les outils, mais on a juste la peur à vaincre. Et l'incapacité de se mettre d'accord et d'assumer que nous ne sommes pas tous au même point sur dans cette course, qui n'est pas une course, c'est juste la vie, et que ceux qui sont en avance ne sont pas des rebelles, des renégats, des salopards qui ont pris de l'avance pour semer les autres, c'est ceux qui ouvrent le chemin, il faut les voir comme des novateurs, qui entraînent. Enfin moi, toute ma vie, je me suis fixé une règle, elle est très très simple. Je ne conseille jamais à personne quelque chose que je n'ai pas expérimenté moi-même et qui n'a pas fonctionné chez moi. Si ça n'a pas fonctionné chez moi, je ne le conseille pas à mon voisin. C'est assez simple. Donc là, je suis en train de faire des essais sur les cordons, parce que je pense que c'est une chance, si on veut produire du vin en Alsace compétitif et de qualité, il faut changer un certain nombre de règles pour que notre coût de production baisse. Puisqu'il va falloir baisser les rendements, il faut en même temps que le coût de production baisse. Parce qu'aujourd'hui, on a mis tous les moyens en œuvre, les tracteurs hyper modernes, tous les moyens. Mais tout ça fonctionne grâce à une économie de la quantité. Or, elle se fracasse sur la réalité de la consommation. Donc, je pense qu'il faut se mettre autour d'une table pour décider d'un protocole de fonctionnement qui permettra de produire, par exemple, 50 hectolitres hectares de façon compétitive. Et par exemple, le cordon, la taille en cordon de Roya, pourrait être une source d'économie extrêmement importante avec les autres mesures environnementales qu'on va prendre, qu'on doit prendre, va être une très très bonne façon de réorganiser nos pratiques en étant de nouveau compétitifs, en produisant moins et quelque chose de vraiment grande qualité. Mais je ne me permettrai pas de dire à quelqu'un « il faut que tu fasses ça sans l'avoir essayé moi-même ». Donc je suis en train de l'essayer sur plusieurs millésimes. Lorsque je verrai les limites, que je suis sûr que ça va fonctionner, je dis « tu peux faire ça en confiance ». Voilà. La complantation, pourquoi des collègues l'ont adoptée ? Mais parce que ça fonctionne. Et que ça ne dépend pas que de moi. Ça existait avant moi et ça continuera d'exister après moi. Mais tout le vignoble européen a été pendant au moins 1000 ans complanté sans que jamais on le dise, parce qu'on ne connaissait aucun autre moyen que la complantation d'assurer une production. C'est dans Olivier de Serres, hein. C'est écrit en toutes lettres, 1500, voilà, croissez, multipliez. Il dit, bah, si vous n'avez pas tout mélangé, ça ne marche pas. Dès que vous allez par la monoculture, bah, finalement, vous avez besoin de technologies extrêmement puissantes et vous avez besoin de pesticides. Voilà. Vous voulez renoncer aux pesticides, vous voulez revenir vers une naturalité, la première chose à faire, c'est biodiversité. C'est assez simple, quoi.
C'est simple.
Voilà. Et la première biodiversité qui existe dans la viticulture, c'est la complantation. Après, tu peux peaufiner, semer des couverts multiples au sol, rajouter des arbres, au-dessus des arbres, rajouter des oiseaux, mettre un vigneron heureux au milieu de tout ça, et tu verras que c'est un grand vin. Voilà. Il n'y a pas de mystère ni de grandes complications métaphysiques derrière ça. C'est juste comme ça que fonctionne la nature. C'est ce qu'on appelle le modèle forestier. Moi, j'ai pas vu un mec qui taille une forêt. J'ai pas vu un mec qui désherbe une forêt. J'ai pas vu un mec qui amende une forêt. Et la forêt, bah, ça fait 300 000 ans qu'elle est là, et puis ça fonctionne, quoi. Hein. Et ça repose bien sur l'idée d'une biodiversité. Donc, remettons la viticulture en ligne avec son temps, avec les enjeux de la planète, avec ce qu'attendent les gens dans l'intimité de la salivation. Ça s'appelle le terroir et c'est pas un objet
fantasmé,
métaphysique, révélé à une petite minorité de gens élus. Tu vois. Non, c'est le bon pain quotidien. Si tu manges du bon pain, tu seras bon père avec tes enfants. Ça paraît quand même évident. C'est simple. Être transparent, faire les choses et dire les choses qu'on fait. Je suis très heureux de la réaction aujourd'hui des jeunes vignerons. Ils ont une caractéristique. Leur vie professionnelle est sur Facebook. Tout ce qu'ils font, ils le montrent. Ils organisent, sans même s'en apercevoir, une transparence totale de leur part.
Bien sûr.
Et donc, bah, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et je me reconnais vraiment là-dedans.
Oui.
Parce que le public a confiance.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Voilà, messieurs. Oui, mais comment on boit ça ?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika.
Moi, c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Pour ça, je vis un moment assez formidable, parce que c'est une vie de travail et de solitude qui, gentiment, va vers son terme avec l'émergence de gens qui, quelque part, avec leur propre sensibilité, s'accaparent des choses que j'ai défendues, des choses que j'ai portées, et les mettent en œuvre avec leur propre sensibilité. Donc, si tu veux, je suis sorti de la solitude et de la bagarre, et de l'exclusion par la violence. Puisque là, tout à coup, il y a un groupe de gens qui se met en route et qui dit que oui, ça c'est important, ça c'est important. Et elle, avec chaque fois,
une intonation, un point de vue, une intention particulière. Enfin, je trouve que c'est beau.
Oui.
Voilà, donc c'est autour de ça que ça tourne. Donc voilà, je pense qu'il y a peu de vignerons qui ont la chance de vivre ce moment où les valeurs que j'ai, qui étaient les miennes, se trouvent portées par une collectivité. Et à l'inverse, cette collectivité est nourrie. C'est-à-dire qu'on a des jeunes, si tu veux, qui posent des questions, qui montrent des choses, qui mettent en œuvre des choses, qui sont bien dans ce que j'ai vu et pressenti, mais qui sont des choses que moi, je n'ai pas expérimenté jusqu'au bout, que je n'ai pas pu faire, ou que je n'ai pas, pas pris conscience. Par exemple, l'eau n'a pas été dans ma vie de vigneron jusqu'à présent une préoccupation très, très, très forte. Parce que je n'ai pas des terroirs qui sont concernés directement par ça. Voilà. Depuis 3 ans, j'ai du Schlossberg, donc là, j'ai commencé à comprendre des choses. Et maintenant, je vois que c'est en train de descendre d'une étape, ça descend de coteau, et il y a de plus en plus de terroirs qui sont concernés. Et voilà, je vois des gens qui proposent des solutions et qui sont bien orientés dans ce mouvement et qui mettent leur expérience à disposition de ce cercle bienveillant qui veut aider le plus grand nombre. Donc c'est pas des gens qui disent nous sommes un club et nous on est les meilleurs et puis allez vous démerder. Nous on dit voilà les outils qu'on met en œuvre pour que tout le monde puisse en sortir. Ça c'est très nouveau dans le vignoble quand même, tu vois. C'est pour ça qu'on a un regard extrêmement acéré sur le syndicalisme, dont nous disons que il est moralement dans une faillite. Totalement insupportable, parce que faire du syndicalisme, c'est s'occuper de la chose publique, c'est faire de la politique dans ce qu'elle a plus noble, c'est-à-dire essayer d'emmener tout le monde. Et on voit que ceux qui font ça, le plus souvent, se sont appropriés des postes, des fonctions, des pouvoirs pour leur propre pomme, et pas du tout pour la multitude, quoi. Pas du tout dans l'intérêt général. Donc, par exemple, le cercle Burger, ce qui est écrit en gros, en gras, en lourd, à l'entrée, quand tu arrives au-dessus de la porte, c'est que ici on est là pour l'intérêt général. Voilà. On ne s'occupe pas d'intérêt particulier, on ne s'occupe pas des exemples personnels, on ne s'occupe que de l'intérêt général. Et quand on parle, on doit toujours parler au nom de tous. C'est là un truc important. Ça, c'est important, tu vois, parce qu'on est là en face de... d'assemblées générales qui sont des sommets de perversion, quoi. Des moments où tu dis qu'est-ce que je fous là, enfin j'ai honte, hein, j'aimerais bien rendre mon aube aussi propre que je l'ai reçue, mais là c'est difficile, mais c'est ça. Voilà, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut?
On fait la...
C'est un gros matériel, il y a énormément de... pour tout ce qu'on s'est dit.
Mais en fait c'est ce que je disais,
c'est pas du tout si vous allez être capable d'en faire quelque chose.
Mais en fait, ça rejoint un peu ce qu'on a déjà eu avec Florian, puisque Florian Bell, c'est le parent du podcast, donc c'est très proche de Yann Durman aussi.
Oui.
Je pensais à Zerizing sur les trois terroirs, et c'était, même sur ces pinots noirs, etc. C'est d'ailleurs là où moi j'ai redécouvert le pinot noir, parce que j'en buvais plus. Ça ne me racontait rien, le pinot noir. Donc je vais pas boire un truc qui m'ennuie, et ça va m'écouter une mauvaise chanson, c'est un peu pareil. Et je trouvais que c'était enfin t'as un peu des, alors, je sais pas si on peut appeler ça des disciples ou non, j'ai des héritiers, des héritiers spirituels,
non, si tu veux, je sais pas si c'est, il y a une dimension d'héritage à cause de la différence d'âge,
oui,
et de la différence de parcours. Après, ça se passe pas comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de déférence hiérarchique entre nous.
Non, pas du tout, non. Ouais.
Et parce que si tu veux, Gourou, je connais.
Ouais.
Je veux dire, Gourou, biodynamie, il faut savoir qu'est-ce que c'est.
Ouais.
Hein? C'est le cercle concentrique des gourous.
Ouais.
Donc, chaque gourou, il a ses 10 apôtres.
Ouais.
Chaque apôtre étant le gourou de 10 autres.
Mmh.
Voilà. Après, les dieux, tu as le gourou central, le grand gourou. Stop, peut pas. Pour moi, ça, c'est impossible. Donc, c'est pas du tout ça. Non, c'est vraiment un groupe qui participe aux mêmes valeurs,
adhère aux mêmes valeurs. Mais chacun vit ses valeurs avec sa propre sensibilité, qui est très heureux de voir que ça fait écho chez quelqu'un d'autre.
Ouais.
Parce que tous ces mecs-là pourraient être totalement solitaires. Mmh. Et c'est ce que moi j'ai été. C'est juste cette différence. Il y a une génération qui émerge, qui pense aujourd'hui les choses comme moi je les ai pensées il y a 30 ans. Voilà. Et ils ne sont pas seuls. Moi, j'ai vraiment été seul. Et donc, il m'a fallu énormément de ténacité et d'abnégation. Je vous donne un exemple. Pour faire bouger des grands crus, obtenir un décret d'appellation pour l'Altenberg, ça a coûté 15 ans de ma vie. Je n'ai loupé aucune réunion. Parce qu'à toutes les réunions, on a cherché à faire reculer la virgule que j'avais construite patiemment dans les trois réunions précédentes. Donc je savais, si je n'avais pas à une réunion, je perdais l'acquis d'une année. Donc j'allais et je gardais le truc. Je mettais la cale pour qu'il ne me déplace pas le curseur à l'envers et que je ne recule pas. Tu vois, un truc de fou. Aujourd'hui, aucun de ceux qu'on a cités n'est prêt à faire ça. Mais ils sont... D'abord, ils ne vivent pas comme ça. Ils ne sont pas intéressés par ça.
Non.
Pour eux, la famille, les enfants, la vie de famille, la qualité de vie, la qualité de vie au travail, tout ça, ça pèse très très lourd.
Ouais.
Pour moi, j'ai pas de choix. Je veux dire, qu'ils me débattaient pour réussir.
Mmh.
Et donc, ça a coûté une vie à passer sur les petits plaisirs, les petits relâchements, voilà, ne jamais reculer, ne jamais céder, ne pas lâcher le morceau. Donc à la fin, tu as une calamité long comme un autobus, tu vois, t'es vraiment le mec infréquentable parce que il y a rien à négocier. T'as déjà la réponse, ils n'ont pas encore posé la question. Voilà, parce que t'as travaillé la question, parce que tu t'es documenté, parce que t'as lu tout ce qui concerne, parce que tu connais les enjeux, parce que tu connais les acteurs des enjeux. Donc, le gars, il arrive avec un truc et toi, tu as déjà mis la canne. Donc, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. On a une chance historique, c'est que ce groupe de gens très divers, ils ont des convictions profondes.
Mmh.
À mon avis, le déclencheur collectif, c'est le changement climatique.
Je pense. Ouais.
Et le déclencheur est très fort et donc ils agissent. Et ils ont une vraie solidarité, une vraie... bienveillance les uns avec les autres, voilà. Et donc, c'est pas étonnant du tout, et c'est un peu le mot de la fin, c'est pas étonnant du tout qu'ils se retrouvent dans le terroir, parce que le terroir, c'est le refus d'un modèle totalement compétitif où on est tous concurrents. Le cépage, c'est un modèle totalement compétitif où tout le monde tue tout le monde, c'est la jungle. Il n'y en a qu'un seul qui peut être champion du monde. Tous les autres, c'est des losers. Et donc, moi, je n'ai pas voulu de ce modèle-là. Je ne voulais pas faire du vin comme ça. Et réfléchissez, quand j'ai décrit Mourc sur une bouteille, bah, je suis juste sorti de l'équation. Parce que Mourc, bah, c'est un projet pour lui tout seul. Et ce n'est pas un projet qui participe à une compétition quelconque. Ce n'est pas le meilleur Riesling du monde, ce n'est pas le meilleur Gewürz du monde, ce n'est pas le meilleur Muscat du monde, c'est le meilleur de rien du tout. C'est juste pour point. On a le droit de l'aimer ou pas, point. Donc quand j'ai fait ça, au plan symbolique, je disais que je ne voulais pas vivre dans un endroit archi compétitif où tout le monde est quelque part... on lutte à mort avec son voisin.
Mmh.
Tu vois? Parce que ce qui se passe à Colmar, point du syndical, c'est la mise en œuvre d'une fausse bienveillance. On essaie de dire, ben vous êtes tous nos mordants. Vous êtes 4000, on est là pour vous protéger. Mais en réalité, c'est 100 mecs qui s'organisent. Comment ils font la prédation à quel over des 3900 autres, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est insupportable, quoi. Insupportable, vraiment. Enfin, moi, je suis très pote avec David Lefebvre, et c'est à travers le compagnonnage avec David Lefebvre que j'ai découvert que moi, que rien ne prédisposait dans mon histoire. Mais j'ai une sensibilité sociale. J'ai une sensibilité sociale. Je ne supporte pas l'injustice. C'est quelque chose qui met... je suis malade. malade, j'ai pas vendu un litre de vin en vrac depuis 30 ans. Donc, je ne peux pas parler de quelque chose de personnel. Quand j'entends qu'il y a des négociants qui ont acheté du vin d'Alsace pour 40 centimes, voire 17 centimes le litre, c'est juste comme si on disait qu'il y avait quelqu'un qui avait prostitué ma fille. Hein. Ça me touche à l'intime. Moi,
17 centimes.
17 centimes. Ils ont chargé des cas pour 17 centimes. Tu sais quoi? Alors que le mec, il a produit pour au moins 1,70€.
Mm-hmm. Oui.
Donc, tu vois, le lait, il est battu à plat couture. Mm-hmm. Parce que le lait, il coûte 32 centimes, 36 centimes à produire, et on leur a proposé 28. Mm-hmm. Mais là, ils l'ont produit pour 1,70€, et on leur propose 17 centimes. Et on est en appellation contrôlée, c'est-à-dire un endroit où l'identité protège collectivement. C'est juste inimaginable, quoi. C'est comme si tu imagines que tu roules sur la route en respectant le code de la route. Il y a un mec qui te rentre dedans parce qu'il roule du mauvais côté et c'est lui qui a raison. Mm-hmm. C'est toi qui es en tort. Enfin, moi je peux pas, quoi. Je ne peux pas. Je suis. Ça me rend malade. Et voilà, et j'ai découvert que j'ai cette sensibilité que personnellement. C'est une des choses qui est le plus difficile à comprendre pour les gens autour de moi. Parce que moi, je suis plutôt un mec qui a réussi. Je suis plutôt un mec, entre guillemets, gros. Mm-hmm. Je suis plutôt un mec, je ne suis pas le plus à plaindre de tous. Et donc, on n'attend pas ça chez moi. Mm-hmm. Pas du tout. De moi, on attendrait plutôt d'être dédaigneux, d'être concerné, d'être dans ma bulle ou dans ma niche. Mm-hmm. Parce que d'ailleurs, c'est niche tout seul. Et taille cette main de niche pour une niche. C'est qu'on n'a rien compris, du tout. Voilà. Donc moi, je ne suis pas du tout dans ma niche, quoi. Je suis impacté personnellement, physiquement, lorsqu'on fait du tort à un de mes collègues qui a fait bien son boulot. Mm-hmm. Parce que je suis un acteur en milieu d'appellation. Et ça me choque qu'on fasse ça dans l'appellation. Vraiment, ça me choque. Parce que ça veut dire qu'on a un code de la route qui protège les chauffards.
C'est ça.
Et ça, c'est insupportable. Voilà. Donc, oui, je trouve que ça, c'est... J'en ai parlé beaucoup avec des gens comme René Baltenbeck. Par exemple, René Baltenbeck disait que... il a fait un certain nombre de choses, et dans ces choses, il a fait des choses réussies et d'autres moins, mais une des choses qu'il estimait avoir ratées, c'était qu'il n'était pas arrivé à faire une vraie appellation contrôlée. Parce que dans une vraie appellation contrôlée, il y a une réussite collective, il y a une solidarité interne et il y a un respect réel des différences. Donc, je vais te donner un exemple factuel d'une appellation contrôlée qui fonctionne. Châteauneuf-du-Pape, 13 cépages. Le président de l'INAO, en 2010, envoie un missile de Dominici à Châteauneuf, au syndicat, pour les prier de décider d'une proportion. Deux réunions, réponse unanime. Le comité du syndicat viticole de Châteauneuf-du-Pape répond au ministre et au président de l'INAO. Si le prix à payer de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, c'est des proportions, nous sortons de l'appellation.
D'accord ? Unanimement.
Unanimement. Et là-dedans, il y avait des mecs 100% de bonnage, mm-hmm. et d'autres 100% des 13 cépages mélangés. Réponse unanime, pas de proportion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun qui produit du Châteauneuf-du-Pape produit à la fois du Châteauneuf-du-Pape dans ce qu'il a de plénitude collective, mm-hmm. et en même temps son Châteauneuf-du-Pape à partir de sa propre vigne, avec son propre équilibre variétal. Et tu sais quoi, c'est une modernité impressionnante parce que là, on a les deux outils. L'outil collectif, mm-hmm. avec une certaine forme de centralité de l'objet, et de l'autre côté, le respect des sensibilités individuelles, mais les outils de la réussite individuelle. Je trouve que ça, c'est pour moi, c'est l'exemple de ce qu'il faut faire. Et donc, je suis reçu, mais ça fait longtemps, hein, je suis reçu au syndicat dans la maison de la fédération. Des vignerons de Châteauneuf. Et alors, c'est une petite maison, un Châteauneuf, il y a trois marches, pas d'entrée, tu rentres, c'est une petite nouvelle.
rez-de-chaussée, et puis encore trois marches. C'est tout, je rentre, je monte les trois premières marches, et il y a une quinzaine de collègues qui m'attendent, en gros, et qui me disent « Entre Jean-Michel, tu es chez toi. » Alors j'étais un peu ému, tu vois. C'était un moment très fort. Le président de la fédération me dit « Entre, tu es chez toi. » Alors je dis « Pourquoi tu me dis ça ?» Il me dit « Mais Jean-Michel, parce que nous partageons l'essentiel. » J'ai dit « C'est quoi l'essentiel ?» Il me dit « Une liste de 13 cépages et pas de proportion. » Et c'est là que j'ai compris que nous aussi, nous avons une liste de 13 cépages en Alsace et pas de proportion. Il y a juste un verrou dans la tête qui les empêche d'adhérer à un système absolument vertueux, à la fois orienté collectivement vers la réussite et avec les outils de l'individualité. On a tout. On n'a même pas besoin de brancher quelque chose. On a juste tout. Et donc, le verrou est dans la tête. Voilà, c'est des types qui s'obligent à écrire une ligne sur la bouteille, y compris quand le vin ressemble à tout, sauf à du mézlier industriel. Tu comprends pas, quoi. Voilà. Donc, il y a énormément de choses à faire pour libérer les verrous dans les têtes. C'est ce qui est en train de se faire par le biais des vins naturels. Tout doucement, il y a un glissement qui s'opère, un libératoire. Et alors, c'est rigolo comme tout, parce que là, c'est vraiment la merde. Et donc, c'est la bataille. Et donc, le président de la BAF vient de proposer deux mesures qui, toutes les deux, sont totalement passées inaperçues. L'aide Squicker a un rendement repli le plus bas de tous les replis. Ce qui veut dire que pour l'immense majorité des gens, produire du vin sans indication de cépage, tu vas naturellement rentrer dans cette catégorie. Oui, d'être sucré, c'est matériellement pas possible, parce que l'immense majorité des gens ne peuvent pas vivre avec ce rendement-là. Premier pas. Deuxième point, dans les mesures qui sont préconisées comme solution à la crédite, il y a alors l'ADRM par cépage. Donc ça, c'est une usine à gaz. Mais c'est impossible, 90% des gens, y compris des coopératives, de le faire fonctionner. D'ailleurs, ils vont s'en rendre compte maintenant, parce que je t'en raison, ils sont rentrés dedans. Donc, la première fois que tu rentres, c'est assez facile. Hein, tu prends la route, tu prends ta voiture et tu fais. Et après, quand tu arrives, tu t'aperçois que il fallait être à l'heure, il fallait faire tant de moyenne, il fallait encore tant de litres d'essence dans le milieu. Enfin, il y a plein de trucs qu'il fallait que tu ne savais pas rentrer. Donc, ils vont faire leur déclaration de stock par cépage et par ligne. Impossible. Impossible. Comment tu justifies les manquants? Comment tu justifies les manquants? Ligne par ligne. Les gars, impossible. Il y a des mecs qui vont passer des nuits, là. Jusqu'au mois de septembre. Et puis la troisième mesure, je sais que j'ai perdu un peu le fil maintenant, c'est aussi une mesure technique comme ça, inaperçue, tu vois, qui a pour conséquence que les gens ont beaucoup de mal à revendiquer quelque chose qui n'est pas dans une cépage. Voilà. Donc tu vois, en face, on met les boules, on serre, on verrouille, on va enfermer les gars. Ils ont l'outil pour réussir. Donc,
C'est ce que la bière a réussi à faire. La bière a réussi à transformer.
Et la bière, elle l'a fait sous l'effet de la consommation.
Ouais.
Et c'est bien ce qui va arriver dans le vin. C'est par la consommation que le curseur va bouger. C'est pour ça que quand je fais une intervention, je commence toujours par la consommation. Et je dis que jusqu'à présent, le plafond de verre, il n'existait pas parce que tout ce qui était produit était bu. Ouais. Mais que maintenant, on a une consommation qui n'est plus finalement là. Elle est choisie. Elle n'est plus subie. Et donc, ça change tout.
Ouais. Mais je pense que même le monde de cépage, c'est la consommation qui est un petit peu imposée. Parce que on a dit que le vin était très, très intimidant un petit peu pour le consommateur. Le fait de voir le cépage sur la bouteille, ça me rassure. Sur le fait de savoir si tu veux fouet, que
oui, allez, oui, comme il se passe maintenant. Je suis assez d'accord. C'était une forme de simplification, on a à la fois ghettoisé le vin et pour le rendre accessible malgré sa ghettoisation, on a proposé une cépage comme modèle.
Est-ce que le pivot, c'est pas minier quand.
Et maintenant, tu as la conséquence, tu te dis, je vous fais goûter du Gewürz? Réponse non.
Ah non,
c'est chérie, là.
Oui, mais alors, je vais goûter un Gewürz. Ah, moi, je n'ai pas le bras sucré. Donc, je fais goûter celui-là.
Elle vous a insisté, c'est bizarre. Elle s'est dit, il y a un truc qui est bizarre. Vous connaissez, goûtez-le et dites-moi. Et on regarde. Oh, oh, c'est un mar sec. Non, mais c'est pas possible. Bah si, c'est travaillé comme ça. Ah, ouais. Ah, en fait, tout ce qu'on a bu pendant des années, en fait, on peut tout. On peut recommencer à zéro. Je dis non, vous avez essayé, vous avez votre palette. Elle va forcément évoluer, quoi.
Disons, il y a un certain nombre de problèmes quand même qui sont posés, parce que même quand on a résolu 95% des problèmes, tu as quand même une difficulté qui reste.
Ouais.
C'est que pour que tu puisses manger du Gewürz dans la viticulture alsacienne d'aujourd'hui, 95% de vignes, il fait 14,5.
Ouais.
Et donc, 14,5, tu peux faire du vin sec.
Ouais.
Ça va être compliqué de le faire sans levure sélectionnée,
ouais.
Premier point. Deuxièmement, si même tu le réussissais sans levure sélectionnée, ça va être très compliqué pour qu'il ne soit pas brûlant.
Ouais.
Voilà. Donc, il y a des techniques, par exemple, les tanins, la macération, il y a des techniques pour contourner l'obstacle. Mais ça reste des techniques pour contourner l'obstacle. La question du cépage lui-même, dans sa position historique par rapport au changement climatique, reste une question à repenser. Et donc, moi, le Gewürz ne pose aucun problème, mais je vois la solution dans son classement pour la plupart des terroirs, peut-être pas le chiffre berg, hein, mais pour la plupart des terroirs, je le vois dans son classement comme cépage accessoire.
Mmh.
Il y en a 10%. Et là, oui, ça le fait. Mais 100%, 100%, comment tu fais quelque chose en équilibre à partir d'un objet déséquilibré au départ? Parce que seul, objet qui n'est pas fait pour vivre seul. Parce que le vrai fond de l'affaire, c'est ça. Il y a des cépages qu'on peut laisser seuls parce qu'ils sont faits pour vivre seuls. Le chenin est fait pour vivre seul. Peut-être qu'on peut dire que le Riesling est fait pour vivre seul. Peut-être que le Pinot est fait pour vivre seul. Mais je suis certain que le Muscat n'est pas fait pour vivre seul et le Gewürz non plus. Le Pinot Gris n'est pas fait pour vivre seul. C'est une évidence. Voilà, le Sipaner peut être considéré dans certains terroirs comme un objet qui peut vivre seul. Il y a beaucoup de terroirs, il ne faut pas le mettre tout seul. Il faut quelque part le contrebalancer. Voilà, donc tu vois, c'est plutôt dans cette mécanique-là. Parce qu'à la fin, bon, si réussi soit-il, ça reste du Gewürz sec. C'est-à-dire... C'est une destination pour laquelle, personnellement, je pars pas en voyage, quoi. Pour ça que chez nous, Mathieu, par exemple, c'est jamais en monocépage. C'est toujours, toujours un assemblage, y compris quand c'est macéré ou que c'est fait en amphore. Là où nous, on a énormément progressé, les vinifications en amphore, les vinifications partielles en amphore.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on vinifie en fondre et on vinifie une partie de la bourdonne. Et au moment où la fermentation devient languissante, dans le chaud, ce qui est logique, parce qu'à un moment, en grand volume, dans une atmosphère réduite, et quoi qu'il arrive, il y a un moment, avec la chute des températures et tout, la fermentation devient languissante. À ce moment-là, on recharge nature.
D'accord.
Et on retrouve une dynamique de fermentation extrêmement active, régulière, rustique, avec des vins qui viennent bon. Avec aussi, puisque quelque part on a travaillé en amphore dans un milieu extrêmement réduit, on a quelque chose qui est profondément réduit. Donc on n'a pas besoin de sulfiter. Et donc on arrive à faire aujourd'hui des vins, y compris avec du sucre restant, avec moins de 30 de total.
Okay.
Grâce aux amphores.
Ouais.
Ce qui est quand même un super progrès, quoi.
Mmh.
Voilà. Donc on a monté toute une collection de petites amphores, chacun des crus. Et donc, on est dans un travail de savoir quelle proportion en volume, date de vendange de la fraction en amphore, fonde terroir par terroir, caler le couple. Voilà. Et l'objet doit toujours être suffisamment transparent pour que tu ne vois pas comment on l'a fait. Voilà. Par exemple, là, dans ces deux vins, dans les deux cas, il y a de l'amphore. À aucun moment, tu te dis que c'est sulfité ou pas sulfité, et à aucun moment, tu te dis que c'est fait en amphore.
Non,
juste effacer, c'est comme la barrique.
La barrique, elle est archi légitime. Il n'y a qu'une limite, il ne faut jamais qu'on voit que c'est la barrique. Quoi. Mais... La Malo, archi légitime. Hein, il ne faut pas que ce soit de la hauteur. Etc. Quoi. Mais oui, mais parce que c'est même un slogan, si tu veux. Quand tu réfléchis, tu achètes une barrique qui te coûte aujourd'hui 900 euros ou 1000 euros. Tu achètes une barrique, évidemment, tu as envie d'écrire au minifier en barrique sur l'étiquette et tu demandes 3 euros de plus, bah qui ? Parce qu'il faut que tu la payes, ta barrique. Ouais, bien sûr. Voilà. Parce que comment tu fais pour la payer sans l'écrire ? C'est encore si con, en vente muette, parce que ça ne marche pas, quoi. Là, quand tu reçois des gens et que tu viens de te voir et que tu leur expliques, tu peux encore leur dire. Tu peux même ne pas leur dire en espérant que quelque part ils peuvent le lire, ils sont assez cultivés. En goûtant. Mais en vente muette, dans des grandes entreprises du linéaire, eh ben, il faut écrire, vinifier en barrique, demander les 3 euros. Et donc, c'est un serpent qui se mord la queue. Comment tu fais un vin qui s'en bat la barrique et tu écris dessus vinifier en barrique ? Comment tu fais ça ? Tu peux pas. C'est antinomique. Tu vois, c'est vrai qu'il y a des difficultés qui sont passionnantes. Donc, nous, on cherche un chemin qui est terroir par terroir, juste à l'endroit où tu ne sais pas comment on a fait. Je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant qu'un vin que tu goûtes et tu te dis waouh, c'est vertigineux, comment ce mec a fait ça. Le pire, c'est quand tu goûtes ton propre vin et que tu ne le reconnais pas et que tu te dis putain de Dieu, le mec a fait ça. C'est quand même un sacré bonhomme. Ça, c'est le fort.
Ce qui t'arrive en Suède.
Ça te vient arrivé une
fois. Ce qui t'arrive en Suède.
C'est ce qui me reste. Oh, mais d'aller, dommage. Ouais, ça m'est arrivé là. Là, ça c'était. Ça, c'était Altenberg. Altenberg.
8-6.
8-6, ouais. Et je goûte le vin et je me dis putain, que gars qui a fait ça.
C'est avec un tartare de bœuf.
C'est quand même mais totalement fait. Mais tout ça pourrait me dire qu'est-ce que c'est. Et je cherche.
Le serveur souhaitait
ça. Et je voyais le sommelier qui rigolait intérieurement. Il se foutait gentiment de ma gueule. Puis à un moment, il me dit bon, ouais, c'est la peine de chercher. Je vais vous dire ce que c'est. C'est votre vin. Je croyais que j'étais foudroyé. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit bah, c'est pas ce mal. Je n'ai pas reconnu mon propre travail. Donc, quelque part, c'est pas signé. C'est pas juste je reconnais mon profil parce que j'ai une grosse verrue sur le nez, tu vois. Voilà, donc ouais, c'était bien. Ça veut dire que mon vin avait atteint une forme d'autonomie par rapport à moi. Il était lui-même. Voilà, et après tout, le grand vin, peut-être que c'est aussi ça.
C'est l'un des risques
du vin nature qui est vendu parce qu'il est nature et qui milite lourdement. La naturalité, ça sent un peu l'écurie sur le côté. Ça, c'est un peu le limite parce que quelque part, est-ce que c'est le grand vin ? Est-ce que c'est le vin ou la plupart de lendemain ? Est-ce que c'est le vin dont tu décris le terroir ?
C'est les deux dire moi, je trouve ça bon.
Après, il y a des saints. Hein. Moi, j'ai rencontré déjà des saints, c'est-à-dire des mecs qui ont une telle capacité de recevoir qu'ils passent par-dessus tout ça, toutes ces freins, toutes ces apparences, et sont capables d'aller derrière les défauts jusqu'au vrai vin. Moi, je n'y arrive pas toujours. Très souvent, je n'y arrive pas. Donc, je reste un pêcheur, personne ne me plaît.
Ouais.
Mais on en est tous là.
C'est ça.
Bon, les enfants, je vous libère. C'était.
Merci à toi de nous avoir reçus.
C'était une après-midi assez compacte. J'espère que vous avez votre mienne de tout ça.
Et je trouve ça intéressant si vous voulez écouter. Moi, je m'énerve justement pour ça parce que forcément, on va retenir que maintenant, nous sommes les
joueurs. Oui, c'est la règle du jeu, c'est la règle du jeu.
Mais... Ah, j'ai pas tout de suite, j'attends un peu.
On décide, oui, pour chose, on va comprendre mieux. Mais bien sûr. Tu sais, la pensée d'autrui. Garde de toute façon, à cause de la dialectique, une forme d'étrangeté. Toi, ton idée, tu l'exprimes avec tes mots et toi, elle est claire. Celle de l'autre, elle est forcément un peu étrange parce qu'elle passe à travers une dialectique qui n'est pas la tienne. Il faut déjà que tu arrives à la. C'est le problème du podcast. On utilise toujours un média. Et ce média, ben, il est comme le regard, il est trompeur. Tu vois, par exemple, moi, j'ai une voix assez osé, qui ne monte pas dans les tours, qui est plutôt reposante. Quand je m'entends une fois en interview, je me dis, les gens vont m'écouter longtemps, parce que je suis calme.
Ouais.
Je suis posé, le débit est assez régulier. Ça passe pas, tu vois, on s'enflamme pas. J'argumente, j'utilise des images spontanément, c'est la même manière de fonctionner. Mm-hmm. C'est assez imagé, donc c'est assez intéressant. On arrive à suivre, même quand on n'est pas forcément très dans l'affaire. Mm-hmm. Mais bon, la pensée d'autrui, c'est un objet toujours très complet, compliqué à. L'idée du multicanal me paraît une excellente idée. Et si on voulait donner l'idée d'une vraie démocratie participative, active et bienveillante, je pense que c'est aujourd'hui, vu le comportement des jeunes et les demandes des jeunes, c'est presque obligatoire de fonctionner comme ça. Ce sera une révolution. Parce que tout le fonctionnement agricole est pyramidal. Il est presque militaire. Tu vois, tu as un syndicat viticole, il a droit à 2 délégués, et il va voter dans une sous-région, on ne sait même pas comment il vote. Ceux qui le mandatent ne savent même pas comment il vote. Après de ça, il y a une sous-région, et il y a 2 délégués ou 4 délégués à un conseil d'administration. Là aussi, on ne sait pas comment les gens votent. Donc la dernière fois, ils ont voté 60 hectos. Et là, ça a été un truc incroyable. Les coopérateurs se sont dit, mais comment c'est possible, ça? Il y a eu une majorité de 18 personnes sur 24 pour voter 60 hectos. Ça veut donc dire que nos représentants, qu'on a mandatés pour défendre 80, ils ont voté 60. Alors, il y en a l'un ou l'autre qui sont venus me poser la question, comment c'était possible, quoi. J'ai dit, mais les gars, mais vous rêvez, vous êtes des vrais enfants. Est-ce que vous croyez donc qu'ils ont un mandat à la main? Est-ce que vous croyez qu'il y en a un seul qui a le courage de demander un vote, un bulletin secret? Non. Donc, mais con, hein, et dangereux. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils veulent un vote nominatif.
Ah.
Alors, vote nominatif, j'ai dit, moi, les gars, il faut juste réfléchir un truc. Vous franchissez la barrière de la démocratie représentative. Si vous demandez un vote, un mandat, il faut pas faire des délégués. Il faut faire un tête. Il faut faire une votation à la Suisse. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr que les gens qui votent pour vous, ils votent comme vous, vous allez voter vous-même. Alors là, panique à bord, hein. Parce que c'est pas sûr qu'eux, ils vont aller voter. Parce qu'il faut encore avoir le courage des opinions. Tu vois, tous ces gens, ils sont apparemment liés par un statut, par exemple la coopération.
Mm-hmm.
Mais quand tu vas derrière ça, il y a des entreprises qui s'affrontent, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, qui ne sont pas dans le même moment, la même idée.
Mm-hmm.
Je vais donner un exemple pour me faire comprendre. Wolberger a eu de grandes difficultés il y a quelques années, ce qui les a obligés à se restructurer, à mettre la pédale d'accélérateur sur le business, à engager des commerciaux, à muscler un petit peu le packaging, l'originalité, et à sortir des marchés de volume qui n'étaient pas compétitifs. Et donc, ils ont mis cette politique en œuvre, qui finalement, ils l'ont partiellement réussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de bouteilles chez Wolberger qui sont vendues sous l'étiquette Wolberger,
mm-hmm,
que de bouteilles qui sont vendues sans la référence au nom. Si tu prends Bestheim, mm-hmm, c'est juste au contraire. C'est des gens qui étaient super à l'aise dans le monde tel qu'il est. Ils ont produit sans compter. Ils se sont appuyés sur la grande distribution et ils ont utilisé le canal de la marque distributeur. Donc aujourd'hui, Bestheim est une entreprise qui vend moins d'un tiers des volumes sous son propre nom.
Mm-hmm.
Donc la marque, ce n'est pas elle qui l'a fait. C'est le distributeur qui l'a fait.
Mm-hmm.
Ils sont juste fournisseurs d'un distributeur. Peut-être fournisseurs prioritaires, mais seulement fournisseurs. La marge n'est pas pour eux. Donc, ces deux entreprises qui envoient des délégués pour défendre une position censément de la coopération ne sont pas du tout dans la même situation d'entreprise, pas du tout dans la même étape de leur histoire, elles n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, il ne peut pas y avoir de vote par famille. L'organisation par famille est une faillite parce que ça débouche que sur des conflits de famille.
Parce que quand je prends le négo, c'est exactement pareil. Quel est le rapport entre Trimbarf et les grands chefs de France? Quel est le rapport entre Trimbarf et Étienne Sip? Il n'y en a pas. Etc, etc, etc. Tu vois? Et quel est le rapport entre... Comment il s'appelle là, dans Baclaville, le... Il y a Howler d'un côté, ouais. Et puis le gars qui a des pierres dans ses vignes, là, comment il s'appelle, qui avait un stand tous les ans à la foire au vin, qui est un petit passé. Kuhlmann, ou je ne sais plus.
Kuhlmann.
Voilà. Qu'est-ce qui lie Howler et Kuhlmann?
Rien. Mm-hmm.
Ils font juste une activité commerciale tous les deux. Après, tu peux même essayer de comprendre plus loin. C'est quoi la différence? Une entreprise comme Best Time, qui travaille énormément avec Sassica, touche une entreprise comme Ribomilé, qui n'a pratiquement pas d'opération commerciale, parce qu'ils vendent ce qu'ils produisent, ils achètent un tout petit peu de vin quand ils n'y arrivent pas, mais l'objectif, c'est d'abord de vendre ce qu'ils produisent, parce que c'est familial. En quoi ces entreprises se touchent? Elles font bien partie de la même famille. Donc, moi, j'ai dit à Boer, je me dis, il faut arrêter. Ton conseil d'administration organisé par famille, les représentatifs de rien, c'est juste la guerre civile organisée en plein air. Voilà. Tu te débats avec des gens qui sont d'accord sur rien et tu prétends qu'ils sont ensemble. Et tout ça, ça vient de quoi? De quoi ça vient, ça, cette situation? C'est que tu confonds l'unité et l'uniformité. Je crois que l'uniformité... Tout le monde avec le casque à pointe, ça te donne l'unité. Mais l'unité, c'est pas ça. L'unité présuppose la différence et le consensus. Tu vois? Mais tu crois qu'il arrive à comprendre un truc comme ça? Je sais pas comment il faut faire, quoi. Comment on fait pour arriver à faire comprendre ça? C'est pourtant pas tellement con. Hein, la différence uniformité, unité.
Ouais, mais j'ai dit, faudrait peut-être quand même, pour devenir président de Navarre, il faudrait peut-être avoir fait quand même un tout petit peu de sociologie, un tout petit peu d'entomologie, un minimum de philosophie. Faudrait peut-être savoir vinifier vraiment, donc avoir été à 2-3 endroits. C'est-à-dire avoir pioché 2 ou 3 ans vraiment une vigne pour comprendre, pour apprendre à parler vigne. Enfin, il faut avoir beaucoup de qualité et puis il faut avoir l'esprit politique et pas être tordu en même temps. Donc avoir quand même l'idée qu'on va rendre son tablier assez vite et une lobe aussi blanche pour la rotule. Donc ça veut dire déjà renoncer à plein d'avantages. Non, mais
les assemblées de fête, hein? Les assemblées de fête?
Non, il y a peu de petits saints besogneux, disait la chanson... Il y a peu de petits saints besogneux qui, quelque part, s'adressent au bon Dieu tous les matins pour le prier et les accueillir. Il y en a peu.
C'est vrai, je reconnais ça, malheureusement.
Bon, les enfants, je vous offre une belle bouteille. Je vous remercie de votre patience. Merci avec un puits de parole qui ne s'arrête jamais. Je parle dans ma tête pour moi. C'est pour ça que le choix des mots est très précis, parce que j'ai eu tout le temps de répéter... Surtout la nuit, parce que la nuit, je me retrouve face aux grandes questions qui sont des questions qui ont toujours à voir avec comment on sort de la merde. Tous ceux qui ont peut-être pas eu la chance, peut-être, tu vois, je réfléchissais. Qu'est-ce qui fait que notre échange a été fécond. De mon point de vue, chacun de vous répondra pour sa part. De mon point de vue, j'ai reçu quelque chose qui est un trésor extraordinaire de ma maman. Des coups de pied, des coups de règle sur le bout des doigts, savoir écrire sans faute, savoir parler sans faute. Voilà, le respect de la langue, le français, ça c'est un trésor magnifique. Inimaginable. Combien de fois j'ai vu des gens, ils voudraient bien dire une idée. L'idée, elle semble être assez claire. Surtout paralysé, surtout embêté. À la fin, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Moi, je connais deux, trois collègues comme ça. Souvent, dans les réunions, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Parce qu'il avait certainement, pour vouloir prendre la parole, il avait certainement quelque chose d'intéressant à dire. Et honnêtement, il a terminé la phrase, il a mis le point. Je suis incapable de te dire ce qu'il a voulu dire. Je n'ai rien compris. Parce que c'est juste incompréhensible, c'est juste incohérent, quoi. Voilà. Donc, ma maman, institutrice, m'a tapé sur les doigts suffisamment pour que je parle en français correct et que je l'écrive pas trop mal. Et finalement, Moudoubi, eh ben, sortait, on a familié ensemble. Je pense, on n'a pas beaucoup bu, mais c'est pas ça qui est important. C'est ce qui est important, c'est ce qui est en dessous. Et les valeurs qui sont en dessous, oui. Les questions qui sont en dessous. Souvent, le vin, tu vois, les gens te font déguster 12 pinards. Et après, t'es en bagnole, tu rentres, t'as mal à la tête, et en même temps, tu te dis lequel était important. Ouais. On a un jour été goûter dans une coopérative avec Mathieu. Alors, en plus, on aime beaucoup le lubrificateur, l'œnologue. Vraiment quelqu'un de bien. Après, il n'y a pas de sauvité. Hein. Non, bien sûr, l'œnologue à la coopérative, ça ne veut pas dire que c'est un type infréquentable, c'est un type bien. Et on a goûté, je ne sais plus quoi, 80 vins, dont certains, pour la première fois de ma vie, j'ai goûté la cuvée Leclerc, la cuvée Cora et la cuvée Métro. Mm-hmm. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu des cuves avec le nom du distributeur sur la cuvée. Là, ça tout la trouille. Tu es en appellation contrôlée. Mm-hmm. Et il y a le logo. Mais... Et ben là, on fait une cuvée, et ben Riesling, et ben j'ai dit à Dups, mais Serge, cette vigne, elle est bien quelque part. Cette vigne, elle est bien sur un couteau. Comment on peut faire une cuvée, et ben là, ça correspond à quoi? Une cuvée, un Riesling, et ben là, est-ce que Eberlin aurait du Riesling dans son jardin? Et cette vigne, elle existe quelque part. Elle a un vignoble. Elle est sur un coteau. Ça ne peut pas exister, une cuvée à Riesling et Barlin. C'est la même chose qu'une cuvée métro. Une Cora. Et donc, on avait goûté toute la cave. Et en revenant avec la bagnole, avec Mathieu, je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu as pensé? Quel est le vin qui te reste? Et alors, on était d'accord tous les deux, ça c'est rigolo, parce que le père est le fils. Hein. Il dit, écoute, le Sylvaner Vieillin en barrique d'acacia. C'était pas mal à goûter. Et parce qu'il s'était amusé à vinifier quelques hectos d'un Sylvaner Vieillin dans des barriques d'acacia. Mmh. Donc, tu sais, l'acacia, ça donne un bois très prégnant, très, très présent, vraiment enfébrant. Hein, donc, il faut du merlot californien pour aller en acacia. Hein, tu ne peux pas t'amuser. Donc lui, il avait dit film s'il menait en Dakar. Et bien, c'était le seul vin Dakar qui avait quelque chose à raconter.
C'est différent, ouais.
Qui existait. Qui avait un point de vue sur les doses, quoi. Il avait une forme, il avait un âge, il avait une gueule. C'était un personnage. Voilà, on pouvait l'aimer ou le détester, mais au moins, il existait. Il n'était pas une virtuelle, c'était un objet réel. C'était rigolo comme tout. Voilà, donc il y en a encore beaucoup de chemin à faire. Mais bon, on va y arriver.
Moi, je pense qu'on va y arriver.
Enfin, en tout cas,
on va y contribuer.
Oui, vous allez.
On fait notre part.
Vous allez lourdement à votre place y contribuer. Là où j'ai beaucoup d'inquiétude, c'est pour la structure de nos villages. Tu vois, si tu réfléchis, quand j'ai commencé en 1974, il y avait 125 déclarations de récolte à Berkheim. Il en reste aujourd'hui moins de 20.
Ouais.
Dans ces 20, il y en a 8 qui sont des professionnels. Ouais. Et de ces 8, tu peux estimer que sous 5 ans, il y en a au moins la moitié qui disparaissent. Donc, dans 10 ans d'ici, à Berkheim, il restera entre 3 et 5 entreprises viticoles professionnelles. Alors, c'est clair, il y aura d'autres entreprises viticoles
qui viendront ici pour travailler des vignes.
C'est clair que Trimbar va en acheter, d'autres peut-être.
Mais en tout cas, des gens de Berkheim, de ce potentiel de départ,
il n'en restera pas. Je ne pense pas qu'il en restera plus que 5.
De 125 à 5. Là, tu vois, quand on est encore 5, il y a des problèmes qui se posaient pas avant. C'est que il n'y a pas forcément besoin d'un boucher. Mais il n'y a pas forcément besoin de deux hôtels. Hein? Il n'y a pas forcément besoin de trois broucs. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas besoin. Et même quand il y a du succès, ça s'appelle le Sancerre. Bah, finalement, c'est un décor, hein, parce que Sancerre, il faut savoir que les 11 étiquettes de Sancerre appartiennent à la même personne.
D'accord.
Il y a 11 entreprises à Sancerre, mais qui appartiennent in fine à la même personne, qui a pris soin de garder les entreprises chacune indépendante avec l'équipe d'étiquette et tout le truc, en compétition les unes contre les autres, mais elles appartiennent bien à la même personne. Donc, Sancerre, c'est un décor de West End.
C'est juste un village fantôme, où il est désert, il n'y a rien à boire, il n'y a rien à faire. C'est juste factice. C'est ce qui attend nos villages. Quand le cœur battant du projet viticole sera quelque part centralisé et sera intégré. Donc tu vois, on peut là à court terme, par exemple, c'est l'intuition de Philippe Lang. Travailler sur le no-tourisme, travailler sur le paysage, travailler sur les villages, le Siva aussi, employer là-dessus, essayer, mais il faut que ça se soit vivant. Et un village viticole où il n'y a plus de tracteurs, où les entreprises sont à l'extérieur, où il n'y a plus de camions de livraison, où il n'y a plus de vie viticole. Enfin, je dirais, à Berkheim. Moi, je passe plus dans le village avec un tracteur. Hein. Je peux te dire. Hein. À Saint-Hippolyte, la route du vin, elle est impraticable. Je veux dire, s'il y a un bus ou un camion qui monte la rue, les voitures en face, il faut qu'elles reculent.
Oui.
Parce qu'on a organisé l'espace de telle façon que deux flux peuvent pas se croiser. Donc, c'est un village dortoir, il est condamné. Il va quelque part être phagocyté par ses faubourgs, qui sont des villages dortoirs. Et ça cesse d'être un modèle viticole.
Et ça, une discussion qu'on a avec les environs de Gamba en disant il est temps pour nous mettre un bon restaurant, un vrai restaurant, pour les gens en petit train.
C'est cool, c'est un village de film en plus.
Mais il n'y a rien à faire. Et donc, mais on fait quoi?
Oui, mais tu vois, par exemple, ici à Berkheim, on a mis la vigne du Sauvelier pendant 25 ans, 30 ans, 25, qui était absolument indispensable pour nous.
Ouais.
Qui a fermé puisque ça a été racheté et puis le chef est décédé, un cancer, donc sa base n'a pas continué.
Allez, je vote. Il y a plus de bouteilles. Bref.
Mais vraiment, ça manque. Quoi. Ça manque. Ça manque.
En fait, il y a un mouvement maintenant.
Il y a un mouvement qui a...
Tout de suite, les îles et qui ouvrent plus en plus de petits magasins, des choses comme ça aussi.
On peut optimiser là-dessus. Donc, de ce côté-là, tu penses qu'il peut y avoir un
réinvite? Il arrive à sa cave, il a... Il y a 600 arbres.
Combien? C'est un exemple. On est 820.
Ah, 800. Moi, j'ai toujours dit 600 et moins.
Il y a deux solutions. C'est soit il y a des villes de taille intermédiaire comme Célestat, où justement, les gens ont peut-être quitté Strasbourg et qui vont se développer, ou alors même dans les petits villages. J'ai l'impression que quand même.
C'est possible.
Alors, moi, ici, je ne le vois pas encore. Et ça ne semble pas être la. Ça semble peut-être là, la préoccupation d'accueillir ces énergies-là, localement. Mais en tout cas, là, si tu veux, sur le plan viticole, on va avoir, dans les 5 prochaines années, on va avoir un problème de pyramide des âges. On va avoir un problème de gestion foncière. Et j'ai peur vraiment que la crise soit d'abord une crise de l'arrachage.
Okay.
C'est-à-dire qu'à court terme... si la demande n'est pas là, les gens ils vont laisser tomber ce qui est moins intéressant.
Et moi,
ils vont laisser tomber le coteau si, quelque part, c'est le modèle industriel qui continue d'être le plus performant et on passe par la quantité. Ou alors, à l'inverse, on va leur mettre un cahier de charges si ambitieux qu'ils vont être obligés de se réfugier dans le coteau parce que ce n'est pas payable dans la peine. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai commencé, hein, je ne suis pas si vieux que ça, j'ai commencé, il y avait 8 000 hectares. On est monté à 16 400. Moi, je ne sais pas si dans les 30 ans qui viennent, il y a encore 16 400. À mon avis, je pense qu'on va revenir, comme ça a été le cas historiquement plusieurs fois, hein, puisque le vignoble alsacien est monté jusqu'à 32 000 hectares.
Ouais.
Et donc, ben, qu'on revienne à nos 8 000 hectares, hein, ben, je ne serais pas étonné que tu vois, la prochaine génération, dans 30 ans d'ici, on soit revenu à cet étiage-là. Parce que les enjeux dans notre métier, les enjeux, c'est quand même... Par exemple, les enjeux environnementaux, je ne sais pas si on est en mesure, vraiment, collectivement, de les assumer. Quoi. Parce qu'on vient de prendre quand même 28 jours de précocité dans le buffet. Ça veut dire changement complet de la viticulture. Moi, j'en ai planté des vignes il y a 25 ans, dans la perspective du changement climatique. Mais il y a 25 ans, Mandebourg, ça a été planté dans la perspective du changement climatique, parce qu'au Mandebourg, il faisait déjà si chaud il y a 30 ans. Que quand on goûtait les vins, ben, il n'avait aucune structure acide. Je me rappelle avoir fait une dégustation avec Michel Bétan, qui a vraiment été un ami avant d'être un prescripteur. Et on a fait une dégustation de tête, on avait 38 Mandebourg, parce que j'avais engagé une petite stagiaire et je lui ai donné comme mission, avec un petit peu d'argent, d'aller acheter toutes les bouteilles qu'elle a trouvées de Mandebourg, partout, de tous les millésimes disponibles. Donc on avait une grande collection de Mandebourg et on a goûté ça et on a compris pourquoi dans le même patelin, les deux négociants du cru plus la coopérative a fait faillite.
Ouais.
Comme un cas. C'est jamais pu prendre. C'est-à-dire, la coopérative fait faillite. Comment c'est possible qu'une coopérative fasse faillite? Elle a fait faillite parce qu'elle produisait quelque chose qui était tout simplement pas bon. Pas bon. Bon ou pas bon, n'est pas la question, mais pas compréhensible, pas dans l'air du temps, pas intelligible par les gens du temps. Voilà. Un objet qui ne correspondait pas. Voilà, avec des arômes de vulcanisation, des Gewürz complètement caoutchouteux, cramés de l'intérieur, sans aucune structure acide, enfin des trucs qui avaient fait la malo, une piqûre lactique, des machins incroyables. Et je lui dis, bah écoute. Il faut qu'on fasse une vigne qui donne des raisins mûrs assez tôt pour pouvoir les vendanger mûrs sans qu'ils soient à 17 degrés potentiel avec plus d'acidité du tout. Donc, vigne basse d'un mètre, 14 500 pieds hectares, 300 grammes par pied, 250 grammes par pied. Donc, ça veut dire 14 hectolitres hectares, 17 hectolitres hectares. Ça, c'est le rendement normal. Nominal de la parcelle programmée. Cette vigne n'a jamais donné plus que 20 hectolitres hectares. À fond des ballons, elle fait 20 hectolitres. Il y a du raisin partout, elle fait 20 hectolitres. D'accord ? Eh bien, il y a de l'acidité. Voilà, c'est un grand vin. Il y a de l'acidité. Donc, c'était déjà il y a 30 ans. Parce que dans ce terroir, la prégnance climatique était déjà si forte que déjà, en cépage, on n'était plus adapté. Et c'est intéressant, j'en parlais avec mon beau-père, et mon beau-père me disait qu'avant-guerre au Mandebourg, il n'y avait pas de raisin blanc. Il y a des raisins blancs, mais on ne produisait pas de vin blanc. On produisait du vin rouge. Et ça avait complètement disparu. Pourquoi ? Mais parce qu'il y avait la demande de Bercy. Dans les années 50, c'était le Gewürztraminer. Et donc les gens ont planté du Gewürztraminer parce que leurs négociants, leurs coopératives, voulaient du Gewürz pour Bercy.
Pour Bercy, ouais.
Tu vois, intéressant. Et nous, on goûte ça et on dit, mais comment on peut boire ça, quoi ? On ne peut pas boire ça.
Okay.
Deux négociants, parce qu'il y avait l'ancien président Luciva, qui a fait faillite, plus notre Pierre Spar, plus la coopérative. Tu vois, quand même impressionnant. Hein. Bon, je vous cherche une belle bouteille.
Merci.
Merci.
À bientôt. Buvons libre, buvez modérément, mais bon, Alsace.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.